Avertissement à tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture ou camion. Bouclez votre ceinture. Interdiction de boire. Pour les prochaines minutes, toute votre attention doit être sur votre radio. Car c'est Radio Shock and Friends qui débute à l'instant. Radio Shock and Friends.
Okay, good evening. This is your captain speaking with just a little flight information.
Attache ta ceinture. Toute l'équipe de Radio Shock and Friends se prépare au décollage.
Salut tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire et à Radio Choc.
Hey.
151e émission, mon Dof.
Ben oui, puis on a appris qu'à 150e, je ne suis pas si idiot que ça en plus.
Ouais. Toi, donc. Merci à Rénal qui a élucidé le mystère de Dof. C'est une vraie caramilque, mon Dof.
Ah ouais.
Ça a pris 150 émissions à découvrir le secret, mais on l'a trouvé.
Pas qu'on le sait, c'est embêtant. Mais bon.
Hey, merci à tous ceux qui ont téléchargé l'émission.
Oui.
Et qui nous ont envoyé des remerciements. C'est très apprécié. On apprécie vos encouragements. Et comme on vous a dit la semaine passée...
Des remerciements?
Oui.
OK, ouais.
Ah oui, il y en a qui nous ont remercié. Ah oui. T'as bouleversé la vie des gens, là.
Ah ouais.
Même celle de Reynald. N'oublie pas.
Non, effectivement.
Hey, ben c'est ça, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Et ce soir, on vous réserve une émission qu'on avait déjà annoncée il y a quelque temps.
Exact.
Et là, on a de nombreux invités avec nous. Le studio est plein, comme on dirait.
Exact.
Hein? Puis on a des gens de Montréal.
La Grande-Ville.
T'es allé là cette semaine,
ben,
toi?
Ben oui, t'es allé à Grande-Ville.
T'es allé niaiser là-bas?
Ben, il y a une formation, t'es allé prendre quelques billets.
Ah, c'est drôle, tu m'as pas parlé de la formation, mais tu m'as parlé de la bière.
Oui, effectivement, moi, c'est bien plus intéressant.
On va où sont les priorités, hein?
Oui, à la bière.
Et là, ce soir, malheureusement, on n'a pas notre ami Tess Denis au téléphone. On l'a en personne.
Oh!
Oui, on va ouvrir son micro, une fête.
On dirait qu'il va annoncer...
Tu me négliges au téléphone pendant des heures, et là, tu me négliges avec mon micro?
Même chose. Hey, salut Daniel.
Bonjour.
Ça fait bon de te voir comme ça avec nous.
Ben, je suis content que tu sentes ça. Non, c'est vrai, c'est toujours le fun d'être ici. Anyway, toi. Puis surtout que ça communique bien plus quand on est tous ensemble. Là.
Et en plus, ça libère une ligne pour nos auditeurs.
Oui, ce soir, c'est spécifiquement pour ça que je voulais venir en studio, justement, pour libérer les lignes, parce que sinon, on allait les occuper toute la soirée à deux.
Oui, et je te dirais que... Ça se dit-tu, ça, je te dirais?
Je te dis que...
Non, mais parce qu'il y a des gens qui m'ont fait des commentaires pour la 150e. Il paraît que je dis beaucoup de raies.
Oui, ça c'est vrai.
Ouais.
Ouais, mais sauf qu'on n'est pas Radio-Canada.
OK, c'est bien. Non, mais ça fait plein de sens que tu sois ici, surtout que c'est toi qui nous a
apporté
les invités.
Ouais. En fait, c'est Botrax, là.
OK, c'est Botrax.
C'est Botrax qui les a apportés, mais moi, je vous ai offert l'idée.
Ouais, t'as lancé l'idée.
C'est ça.
Et en plus, Seb qui est là.
Ah oui, il est haineux déjà.
Qu'est-ce que t'as dit? On n'a rien compris.
J'irais plus avec amener.
Amener, OK.
Ouais, apporter, c'est pas des choses.
Fait que moi, des raies puis des apportés, on est dans la...
Ouais, c'est ça, ça va, ça va pas très bien. Donc, vous avez entendu la voix de Seb qui est là.
Ouais.
Il y a Botrax qui est en studio, branché à Internet. Salut, Botrax. Witness qui est à l'heure, ça, faut souligner ça.
Ouais, salut, je pense que c'est...
Salut, Witness.
C'est sa résolution du jour de l'an.
C'est ça que j'allais dire, mais la résolution de 151e.
Ça va?
151, tu sais, ça veut rien dire, fait qu'il fallait bien que je marque ça. Hein.
En plus, on dirait que tu as eu le temps d'aller te changer, t'as pas ton saut de la job.
Non, je l'ai pas mis aujourd'hui.
Il est chic and swell,
hein? Ben non.
Les vendredis casual, qu'on appelle.
Yes.
C'est permis de faire ça où tu travailles.
Oh oui.
Belle condition, ça.
Wow.
Le gars n'a pas de salaire, mais il peut partir le gilet qu'il veut le vendredi.
Il s'est fait couper les cheveux.
C'est ça.
Couper les cheveux en plus, notre business. Ouais, ben oui.
Dove, t'as remarqué ça, toi?
Ben voyons, écoute, c'est dur de ne pas remarquer ça.
Hey, on présente-tu nos invités tout de suite?
Certainement, mais on va les laisser se présenter, je pense, par exemple.
Oui, parce que toi, t'as déjà fait...
Connaissance,
comme on dit. T'aimes ça traiter...
Il les a amenés souper.
On est allés super ensemble au resto.
Toi qui as payé la facture?
Non, je pensais que t'allais être là. Mais
là, t'as passé pour
exemple.
Je pensais que t'allais être là. Fait que...
Non, mais on va les laisser se présenter. Mais tout d'abord, pour les laisser se présenter, on va les présenter. On a tout d'abord Stéphanie.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Stéphanie, qui est, j'imagine, une connaissance de nos amis ici, là, de nos Guy
Luron. Oui, j'ai malheureusement la chance de connaître Tess Domi depuis quelques mois déjà.
Ah oui? Mm-hmm. Donc, c'est récent. Ça fait pas, vous n'êtes pas des amis de longue date.
Non, mais j'ai l'impression qu'on se connaît beaucoup trop déjà.
Okay. Beaucoup trop déjà.
Beaucoup trop. On a ça là qu'on a une ex-femme en commun.
Oh! Ah? OK.
Oui, parce que ça donne qu'elle a... Elle l'a connu dans le passé, alors que je ne le savais même pas.
Ah, OK. Tu vois, ouais. Des fois, on fait... Ben, on dit toujours que le monde est très petit.
Fait que je connais déjà ses défauts.
V'là longtemps. Oui, c'est ça, il a tout raconté.
OK. Et, ben, Stéphanie, présente-toi un peu, là. Parce que on a déjà annoncé à nos auditeurs que ce soir, ça va être particulier comme
show, hein?
Comme émission. Je pense que, sans dire qu'on est la première émission de Radio Alpha, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui vont faire... le genre d'émission qu'on va vous livrer ce soir. Et j'espère que vous allez apprécier et que vous allez nous appeler aussi si ça vous fait réagir, parce qu'on veut vous faire réagir aussi. Puis si vous avez des questions, c'est le temps. On a des gens très intéressants avec nous ce soir, puis je suis convaincu que leur histoire va vous passionner. Donc, Stéphanie, présente-toi un peu, là. D'où c'est que tu viens, d'où c'est que tu vas et vers quoi tu veux nous apporter ce soir, surtout, parce que je pense que c'est important aussi que votre visite laisse des choses à nos auditeurs.
Donc, en fait, je viens de la grande ville, de Montréal, et bon, c'est ça, dans le fond, faire une histoire courte, j'ai une condition qu'on appelle une condition intersexuelle qui fait en sorte que, à la naissance, mes organes génitaux étaient, on pourrait dire, flous, ou en tout cas, si on les regarde comme il faut, on n'est pas sûr, il y a une ambiguïté qui était là, et ça a fait en sorte que, à un moment donné, puisqu'on est dans un monde qui est très normatif, où est-ce que tout est blanc ou tout est noir, mais il n'y a rien qui se pose d'être gris, à ce moment-là, il a fallu que bon les médecins fassent un choix, et ils ont fait le mauvais choix, ce qui a fait qu'éventuellement, j'ai vécu ce qu'on appelle une transition, d'être passé d'un genre à un autre en termes d'apparence et de présentation. Donc, dans le fond, j'ai eu une transformation, si on veut, d'un homme vers une femme. Donc, mais je pense que pour pouvoir introduire mieux ce sujet-là. Mon amie Chloé va pouvoir parler un peu plus de tous ces concepts-là.
Oui, parce qu'effectivement, on a Chloé qui est avec nous ce soir, qui, là, et là, je veux déjà faire peut-être une distinction. Tu as utilisé le mot intersexualité,
oui.
Ambiguïté sexuelle.
Mm-hmm.
Ça, quand on va faire référence à ça, on va parler de Stéphanie. Et là, quand on parle à Chloé, on parle d'autres choses. On parle de transsexualité. Je te laisse t'introduire aussi, Chloé.
Ben, c'est ça. Moi, c'est Chloé. Je suis contente d'être ici. Ben, c'est ça. Moi, quand je suis née, puis que le docteur m'a suivi, puis qu'il a regardé ce qu'il y avait entre mes jambes, il n'y avait pas d'ambiguïté. Tout était bien fait, tout était bien formé. Puis il a dit à ma mère, bravo, vous avez un petit garçon. Et ça, ben, ça l'a comme bousillé une bonne partie de ma vie, jusqu'à l'âge de 24 ans. Ou que là, j'ai comme réalisé que ça ne pouvait plus continuer comme ça, parce qu'en dedans, je ne me sentais pas comme un petit garçon. Et donc, j'ai entamé ce qu'on appelle un processus de transition, qui est du sexe masculin à l'époque jusqu'au sexe féminin. Et bon, ma transition est terminée depuis un bon bout, mais j'aime
donc
toujours...
Donc, toi, tu es allé jusqu'à l'opération.
Oui.
Quand tu dis « elle est complète, terminée », c'est un processus complet.
Oui, mais... Encore là, complet pour moi.
Oui, oui.
Comme je vais expliquer plus tard, c'est à chaque personne de définir c'est quoi pour elle un processus complet. Mais pour moi, oui, ça s'est rendu jusque-là. Et bon, ça fait quelques années de cela. Mais je suis quand même contente de pouvoir venir ici parler de ça, même si c'est derrière moi, pour essayer d'expliquer un peu aux gens c'est quoi qui se passe. Et puis donc, c'est ça qui est important pour me différencier de Steph, c'est que, c'est ça, moi, il n'y avait pas de doute. Moi, je suis née avec les chromosomes XY. Aucun problème là-dessus. Je suis vraiment née dans un corps mâle, mais dans ma tête.
Et j'invite, s'il y a des auditeurs qui sont dans la catégorie des intersexués ou des transsexués, de le faire, de nous appeler si vous avez des préoccupations. Et comme on dit, si vous êtes gêné, si vous voulez garder ça de façon anonyme, ben, faites-le par courriel live@radioshocklife.com, puis ça va nous faire plaisir de transférer vos courriels à nos deux invités qui pourront peut-être vous aider là-dedans puis répondre à quelques questions que vous avez, parce que On s'entend que ce soir, sans dire qu'on va dans un sujet qui est tabou, c'est pas quelque chose qui est nécessairement parlé à toutes les bonnes tables québécoises là, lorsqu'arrive le temps des festivités des fêtes.
C'est pas, le sujet préféré lors d'un souper, mettons.
Ouais, c'est ça.
Puis, ça peut déstabiliser quelqu'un.
Malheureusement aussi, quand le sujet est amené dans les médias, c'est souvent amené de façon sensationnaliste.
Ouais. Beaucoup de préjugés.
Ouais, je me souviens d'un documentaire qui est passé à Radio-Canada il y a un mois ou deux. Qui était vraiment présenté de façon sensationnaliste, que j'avais pas. Donc, il faut faire attention de la façon que c'est présenté.
Bien, je vous dirais que ce soir, c'est sûr qu'on va sûrement tomber un moment donné dans des préjugés, mais il faut le faire, puis il faut que vous nous corrigez. Mm-hmm. Parce que, il y a, malheureusement, et moi le premier, et quand d'ailleurs j'ai annoncé l'émission, tu sais, il y a des choses qu'on prend pour acquis, mais quand on les confronte à des gens qui vivent une réalité tout à fait différente, Et je veux pas dire que vous êtes différent, mais vous avez quand même un cheminement qui vous distingue.
Ça sort de l'ordinaire, maintenant.
Ça sort de l'ordinaire, mais vous êtes pas des animaux de cirque, hein. Je pense qu'à la base, il faut dire ça, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vous caractériser comme des gens qui sont un peu plus particuliers, mais qui en plus parce que vous êtes pas tout seul, là. C'est ce que je veux dire aussi. Vous avez plusieurs personnes qui vous ressemblent. Qui vivent les mêmes réalités, je pense qu'il faut parler de la question. Oui, Tess Demi, je t'avais
dit. J'allais dire justement la raison pour laquelle je t'avais proposé le sujet, c'est que justement il y a les normes sociales qu'on voit au niveau hommes et femmes constantes. Il y a ça peut pas s'appliquer à tout le monde, puis il y a des différences, puis il y a des gens qui ne se sentent pas bien là-dedans. Puis les deux invités ont une expérience qui est unique. Ben, je te dirais, oui, on a tous une expérience unique, mais la leur, elle est particulière et elle ne fit pas avec le moule régulier.
Ouais.
Puis, je voulais justement faire présenter ça ce soir parce que tout d'un coup, qu'il y a des gens à l'extérieur ou des gens qui écoutent l'émission, puis là, ils se disent, hey, finalement, là, cette personne-là, c'est moi. Puis là, je viens de réaliser quelque chose. J'ai peut-être besoin d'un coup de main, j'ai peut-être besoin de réaliser quelque chose, de qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Peut-être que ça peut aider. T'sais.
Et pour assurer d'off, on va en faire une émission d'off sur les transformations sexuelles pures et simples de format esthétique. Tu sais, des gros
les
seins.
Les implantations
ouais,
mammaires.
Surtout les seins, je pense, c'est ça qui t'intéresse.
Ben, mais c'est pas laid. Hein,
non, parce qu'au départ. Laid, non, mais c'est... au départ.
Même bon,
je suis un type cul, tout le monde.
Ben, je suis un type. Ben, écoute, on en a déjà parlé. Je suis un type 5 et devenu type fesse. Mais je te dirais que je demeure type fesse, mais on dirait que les seins viennent martétiller un peu. Là.
Comme ça serait pas nouveau. Comme ça serait pas nouveau comme affirmation. Non, mais tout ça pour dire que je veux faire le parallèle parce que quand on avait annoncé à l'origine l'émission, c'était pour parler des transformations au niveau esthétique. Et là, on a fait évoluer le show parce que justement. Tess Demi nous a suggéré votre présence et il faut...
Et on est content d'ailleurs que vous soyez là en passant.
Oui, et d'un, je vous lève mon verre, même si j'en ai pas actuellement dans la main, parce que ça prend du courage pour le faire, hein, même si on dit qu'on est à l'aise ensemble ce soir, je pense que vous avez dû réfléchir sûrement avant de dire un oui, là. À moins que vous me dites non, c'était spontané, puis que vous me dites que c'est quelque chose avec lequel aujourd'hui vous vivez très bien.
Moi, je l'ai proposé à Tess Demi de venir sur l'émission. Donc,
OK, c'est toi qui es allé vers Tess Demi.
On en a parlé.
En fait, je pense qu'on est venu à parler du fait que je collaborais sur le show. Puis, je pense que d'instinct, on s'est compris que ce serait une excellente idée.
Oui.
Mais moi, c'est Steph qui est venu me voir parce que, bon, c'est ma meilleure amie. Puis, on en a parlé à Dan, puis Dan, Tess Demi.
Pour moi, c'est correct.
ils sont venus me voir les deux. J'ai hésité au début parce que moi, je vis dans une certaine invisibilité, dans le sens où, bon, les auditeurs ne nous voient pas, moi et Steph, mais je veux dire, s'ils nous verraient...
S'ils nous voyaient.
Merci.
C'est pas ce qu'on a dit au début du show, là, les rêves.
Ouais. On a quand même le privilège d'avoir une apparence qui...
Oui, et j'en témoigne.
Et donc, tant dans mon travail, entre autres, personne ne sait que je suis transsexuelle.
Ah non, ça, non, c'est quelque chose que... C'est-tu la même chose pour toi, Stéphanie?
C'est pas quelque chose que, premièrement, t'annonces en entrevue. Et bon, tu sais, je veux dire, ça fait partie d'un dossier médical. Tu sais, je veux dire, autre que, tu sais, si par exemple, Duff, t'as une tétine sur une fesse, je pense pas que c'est la première chose que tu vas aller dire à ton employeur. On s'entend que c'est légèrement pas de ses affaires.
Non.
Fait que veux pas, ça fait en sorte que, tu sais, à moins que la personne te pose clairement la question, puis encore là, tu sais, je veux dire, si la personne me demandait qu'est-ce que j'ai entre les deux jambes, je pourrais lui répondre, et toi, quelle est la longueur de ton engin? C'est aussi personnel.
Mais c'est parce que, à quelque part, ça paraît. Ça paraît dans des traits qui sont différents entre un gars et une fille. Même autant transformé que tu voudras. Là. Moi, j'ai vu tout de suite la différence en rentrant tantôt.
Oui, mais tu as déjà un contexte. Tu es déjà au courant d'une...
Tu sais qu'on va parler de ça.
J'étais pas du tout au courant avant de rentrer ici. Là. C'est Tess Demi qui me l'a dit de quoi qu'on parlait.
Peut-être, mais je te dirais que c'est borderline.
Mais je te dirais que c'est pas donné pour tout le monde, tu sais. Puis moi, là, je vais dire, honnêtement, là, je vais dire une chose. La première fois que j'ai vu une photo de Chloé, parce que moi, je les ai invités à souper chez nous, là. Puis la première fois que j'ai vu une photo de Chloé, j'ai fait comme, waouh, c'est bien belle, cette fille-là. Puis après ça, elle a passé à la porte chez nous, j'ai fait comme, tabarnouche, je me semble que j'aimerais ça que ça reste. Puis c'est 3h30 plus tard que je l'ai su. Quoi? T'étais un gars avant? Je dirais quand même oui, là.
Donc,
Non, je voulais juste que ça soit confortable.
Hey, mais là, il y a une witness,
il y a une question qu'un auditeur m'a demandé de poser.
Oui.
Il voulait savoir pour un transsexuel si c'était une insulte de se faire appeler chimère.
Ah ben. Premièrement, on va régler quelque chose par rapport à un transsexuel puis une transsexuelle.
Ouais.
Alors. Moi, d'habitude, j'aime bien les mots féminins. On me déprête. Je sais pas, les trucs masculins, ça fait pas trop avec moi. Donc, oui, une transsexuelle. Et chimelle, c'est un terme qui est issu de la pornographie.
Ben, c'est ça. C'est la première image qui nous vient à l'esprit parce que...
Parce que tout le monde regarde la pornographie?
Non, mais...
Non, mais c'est généralisé. C'est
on,
juste que...
On s'entend que c'est le véhicule qu'on utilise beaucoup sur Internet pour parler... pas n'en parler, mais... Bon, je voudrais faire une représentation de ça, mais c'est déplorable. Parce que ça, c'est le premier préjugé qu'on peut avoir.
Oui, mais c'est parce qu'on le vend sous forme de sensationnalisme aussi. C'est normal aussi que les gens aient ce genre de questions-là ou se posent ce genre d'affaires-là, parce que s'ils ne se questionnent pas, ça devient... On dirait que ça rentre dans le psyché social.
Mais si on veut répondre à l'auditeur, est-ce que le shemale, c'est un peu ça quand même, ou on est carrément plutôt... vraiment l'aspect sexuel de la chose.
C'est l'aspect sexuel de la
chose.
C'est
uniquement ça.
C'est la pornographie directement.
C'est une marque de commerce parce qu'il y a un marché.
C'est une étiquette.
Il y a un marché qui est très fort et très en demande pour ce genre d'actrice-là dans les films.
Donc, si on veut, comment je pourrais dire, se faire une image de Chloé, systématiquement, on éloigne ça de notre pensée.
Ah, tout à fait.
OK. Si on continue un peu dans le cheminement de la... Et tu m'as dit le mot féminin versus le mot masculin. Puis moi aussi, j'étais confus. Je me disais, j'appelle ça un transsexuel et une transsexuelle. Y a-t-il un genre au mot ou c'est
alors,
ça dépend de la condition d'origine de la personne?
Ben en fait, moi, personnellement, je pense que ça va plus selon, non la condition d'origine, mais la condition visée.
C'est ça.
OK.
C'est dans le sens qu'une transsexuelle, ça va être l'homme qui devient une femme. Et un transsexuel, ça va être la femme qui devient un homme.
OK.
Y a-tu des statistiques là-dessus? C'est ben, plus les gars qui deviennent femmes ou les femmes qui deviennent hommes?
Bien ça, les stats, lui.
Ben, au niveau des stats, là, en ce moment, moi, tout ce que j'ai comme stats, bon, c'est relié à moi par rapport à l'intersexualité. Mais c'est quand même assez intéressant. On parle du nombre total de personnes dont le corps diffère d'une manière ou d'une autre du standard féminin ou masculin. On parle de une naissance sur 100.
C'est des intersexuels.
En Amérique du Nord. Ça veut dire que tu pourrais avoir quelque chose de féminin en toi et tu ne le sais peut-être même pas.
Ouais. Okay. Mais tu voudrais-tu aussi...
Je pense que Dove, c'est son profil.
tu voudrais-tu aussi élaborer sur les types de conditions d'intersexualité?
Ah, il y en a vraiment plusieurs. Si je me fie justement à la société nord-américaine de l'intersexualité, si je regarde, faudrait que je les compte.
Mais juste pendant que tu fais ça, de mémoire, c'est toi aussi. Quelqu'un m'avait expliqué qu'il y avait comme une cinquantaine de conditions différentes d'intersexualité. Certaines sont plus graves que d'autres et la majorité des gens ne le verront pas pour le reste de leur vie jusqu'à ce qu'il arrive un événement quelconque où là, ils en prennent connaissance.
Je dirais qu'en fait, en termes de syndrome ou de conditions, il y en a 16 qui ont été nommés.
OK, ah, OK, nommés.
Qui ont été nommés et... Encore là, dans ces comme par exemple ma condition à moi, il y a une échelle. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs variations dans chaque condition, ce qui fait en sorte que bon, je veux dire, sky is the limit pour le nombre de possibilités. Je veux dire, ça peut aller aussi loin d'un pôle à l'autre.
OK.
Mais tu sais, intersexuel, on parlait, Daniel, tu disais, on est porté à, en tout cas, moi le premier, peut-être j'étais dans l'erreur, mais effectivement, un pénis, un vagin, c'est un gars, c'est une fille. Moi, j'arrêtais ça là, honnêtement. Jusqu'à temps que Daniel me dise non, effectivement. D'entrée de jeu, tu nous es arrivé en disant, bon, il y a des organes génitaux qui sont plus ou moins définis femmes ou hommes, ou tu sais, c'est un peu comme un an. Parce que pour les gens qui écoutent, tu sais, j'essaie de mettre dans le pot un peu de tout le monde, c'est un nouveau concept un peu. On connaît pas ça, on s'entend. Moi, en tout cas, je connaissais pas ça nécessairement. Mais je veux dire, jusqu'à quel
c'est
point.
C'est le but de l'émission aussi, non, de non, faire connaître
sais,
aux autres.
Je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que.
Bravo, il a enfin compris le but.
Ça a pris 151 shows.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'en arriver, comme toi, dans le fond, t'étais un petit peu plus axé, d'après ce que tu disais, peut-être un peu plus mâle, finalement, puis ils ont opté pour ça.
Ben encore là, ça dépend du point de vue où tu te places. Au départ, d'entrée de jeu, justement, avant l'émission, je t'avais montré sur le site Internet.
Exact.
Sur le site Internet en question, la chose qu'on remarque qui n'a pas changé, c'est les organes génitaux internes. On parle d'utérus, on parle de... Ça n'a pas changé d'un bout à l'autre. Donc, si tu te fies à ce qui est interne ou si tu te fies à la génétique, moi, j'ai deux chromosomes X et j'ai un utérus d'entrée de jeu. Si tu te fies, par exemple, à l'aspect extérieur au niveau génital, je veux dire, bon, j'avais un clitoris allongé, qui ressemblait plus à une... qui avait une forme phallique, les lèvres étaient soudées ensemble jusqu'à un certain point. Il y avait quand même une orifice qui était là, c'est juste que était plus fermé. Donc, l'ambiguïté, bon, c'est quand tu prends l'enfant, justement, Chloé le disait tout à l'heure, on prend l'enfant, elle, dans son cas, ah, c'est un garçon. Moi, dans mon côté, le médecin est arrivé, c'est un enfant qui a l'air en santé.
Mais les médecins, justement, parce que t'as les parents qui sont là-dedans aussi, ils doivent parler aux parents de dire, écoutez, c'est un peu comme entre deux sexes, dans un sens. Est-ce que les parents ont un mot à dire, à choisir vers où on axe ça? Ou...
Je te dirais que, bon, dans les années 2000, évidemment, les mœurs changent beaucoup. Quand moi, je suis née, on était à une époque, ben peut-être pas une époque, là, mais...
Une période, ouais.
Une période différente où est-ce que, bon, les médecins, ce qu'ils ont dit à mes parents, c'est « Madame, monsieur, votre enfant souffre d'une condition médicale qui peut être réglée par la chirurgie. Veuillez signer ici. »
Oui, c'est ça. Ouais. Veuillez signer ici.
Oui.
C'est pas voudriez-vous.
Mais
c'est veuillez.
Avant d'aller plus loin dans l'émission,
oui.
Est-ce que on va essayer, là, c'est un exercice que je tente, là. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme?
Il y a des chercheurs qui font ça depuis des années qui n'ont pas de réponse claire encore.
Mais c'est pour ça, Doff.
Parce que Doff, c'est celui qui paye les bars. Les filles ont un coupon trop fort.
Bon, les frustrations qui font refasse.
C'est un truc, ça, c'est
parce que Smart, si tu veux définir qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, faut que tu décides sur quelle dimension
c'est
tu
ça,
te bases.
Voilà. Mais je pense que Doff, quand tu fais référence, et c'est bien parce qu'il a utilisé le premier stéréotype de la société, c'est qu'on met l'étiquette en fonction des organes génitaux. Ouais. T'es une femme parce que...
L'apparence.
L'apparence, ça. Parce que encore là, les organes génitaux, présentement, je vois pas les vôtres.
Non, mais...
Donc...
Je peux donner deux, trois adresses Internet.
On va régler ça de suite, là.
Ouais, c'est enfin ce manu pour de vrai.
Non, mais... Et ce qu'on dit là, c'est exactement le cas de Chloé. Parce que là, toi, t'avais les organes génitaux d'un homme.
Ouais.
Et jamais, j'imagine, une seconde, toi, en tant qu'individu, tu t'es considéré comme un homme.
À partir, disons, de la fin de mon primaire, c'était très difficile, mais bien que j'essayais de me convaincre, je veux pas, à un moment donné, tu réalises qu'il y a des choses qui se passent dans ta tête, que tu te demandes que c'est ça, pourquoi je pense de même, puis on essaie de se convaincre. Donc oui, pendant un bout de ma vie, je me suis convaincue que j'étais un homme, puis j'ai vécu tel quel.
OK, mais parce que, et là, je suis pas estomaqué, mais j'ai un de nos auditeurs qui est un très bon auditeur à l'émission, qui est maintenant dans le processus, là, qui a changé de nom, tout ça. Puis,
nice.
D'ailleurs, ma blonde à la maison, elle disait, comment ça, cette fille-là, je la vois se déconnecter, puis connecter sur ton MSN, puis je n'avais jamais autorisé cette personne-là, mais il a changé de profil MSN, il a changé de nom. Fait que, tu vois, regarde, quand je disais qu'on allait peut-être avec l'émission...
Ouais, excellent.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
On félicite cette personne.
Oui, puis dans un processus, mais là où je veux ramener... Le débat, c'est par rapport à l'ambiguïté, à savoir ce qu'est un homme et une femme.
Ben, il y a eu plusieurs pistes qui ont été essayées pour essayer de le trouver. des pistes biologiques comme les hormones, la forme des organes génitaux, les chromosomes. Puis à chaque fois, il y a une exception. Il trouve une exception qui fait en sorte que ces définitions-là ne fonctionnent pas. Puis il y a des définitions plus sociologiques par rapport au rôle que va adopter une personne dans la société. Puis mais encore là, on réalise que culturellement, si on change d'endroit dans le monde, la définition d'homme et de femme, il n'y a rien d'absolu. Ça change selon la culture. Donc, c'est très difficile. Donc, on peut pas comme...
Et si on prend l'exemple avec l'espèce animale, il y a des animaux qui n'ont pas de sexe. Tu sais, qui sont... Bon,
les hippocampes.
Ils sont ce qu'ils sont. Puis,
les hippocampes, par exemple, c'est l'homme qui tombe enceinte.
Ah ouais. Ouais. Il y a le droit,
il y a le droit.
Il y a le droit.
Non mais tu comprends parce que Duff, normalement je m'attendais à une réplique genre comment est-ce qu'ils font, ils la mettent devant une vitrine de magasin, puis après ça ils voient si c'est une femme ou un homme ou
non,
ou,
mais
il,
je suis...
ou ils donnent un téléphone puis regardent celui qui parle le plus longtemps au téléphone.
Ben c'est là que chauffe le plus mal.
Tu l'envoies au centre d'achat, celui qui dépense le plus généralement c'est la femme. Mais non mais sérieux.
Ça dépend c'est marié Duff, c'est ça.
Non mais j'ai encore un peu de misère avec le principe de définir l'homme ou la femme parce que
ben, oui, c'est assez important.
Non, mais c'est pas, je suis pas ça, je te dis.
En fait, c'est ça, c'est que le concept d'homme et de femme, comme n'importe quel concept, c'est quelque chose qui tend à changer avec le temps. Si on prend, par exemple, en Grèce antique, tu sais, dans le temps d'Aristote et tous ses amis, lui, dans ce temps-là, c'était normal que un homme, dans son processus de vie, avant d'être considéré comme étant un adulte, il y avait une période où est-ce que l'homme adoptait tous les rôles qui sont sociaux, même sexuel de la femme avant d'être un citoyen dans la société. Et donc, à ce moment-là, bon, ça donnait, avec ce qui était connu à l'époque, tu sais, je veux dire, il y avait la sodomie et tout ça. Donc, à ce moment-là, ces hommes-là passaient par là et étaient éduqués par des hommes âgés, adultes et évidemment beaucoup plus conscients qu'eux de la vie. Donc, à ce moment-là, je veux dire, c'est les rôles sociaux qui tendent à changer. Aujourd'hui, je veux dire, on fait pas nécessairement ça avec nos jeunes adolescents en plein âge, mais tu sais, je veux dire, les concepts d'hommes et de femmes changent avec la société et c'est quelque chose qui est pas ancré dans le béton parce qu'on peut pas trouver vraiment de définition. Comme Chloé disait, il y a toujours des exceptions. C'est pire que la langue française à ce niveau-là.
Puis trouvez-vous que la société dans laquelle on vit et pour le vivre de l'intérieur, chacun dans vos cas respectifs, mais trouvez-vous que la société est plus évoluée, peut-être qu'elle l'était il y a 15 ans, 20 ans, face à ce genre de changement, ou ça n'a pas évolué de 5 cents?
Je veux juste compléter un peu ce qu'elle disait. Juste donner un autre exemple qui est plus proche de nous. Les Inuits, en fait, certains tribus d'Inuits, pour eux, c'est complètement séparé du sexe biologique parce que, par exemple, quand ils venaient à manquer de chasseurs, dans la tribu, il disait, le prochain enfant, ça va être un garçon, peu importe si il naît avec... Ça va être un garçon.
Son sexe biologique.
Si c'était une petite fille, il l'élevait comme un garçon, puis ça finissait là, puis il était un garçon toute sa vie. Donc, c'est très près de nous, là, géographiquement.
Oui, et c'est bien que t'en parles, parce qu'en lisant sur la transsexualité, c'est le genre d'exemple nord-américain qu'on nous donnait. On nous disait qu'il n'y a pas vraiment de genre pour eux autres. Mm-hmm. Et il l'attribue en fonction des besoins, tu sais, that's it, that's all.
Oui, il y a un cas aussi en Amérique du Sud où est-ce qu'ils ont inventé un troisième genre, je ne me souviens plus exactement où, mais ça aussi, ça a fait les... Bon, j'avais lu ça dans le National Geographic, mais c'est...
Un troisième genre?
Oui, un troisième genre, donc c'était pas homme, c'était pas femme, c'était comme...
In between.
C'est pas le métro sexuel.
Non, mais c'est ça.
Ouais, c'est lui qui est entre les deux.
Ouais, c'est le métro sexuel, moi je le voyais un petit peu entre les deux.
Non, ça c'est les gens qui prennent le métro et qui ont des relations sexuelles dedans.
Non, mais il y en a que... Puis j'en viens à l'exemple que Chloé donnait. Moi ici, il parle même de quatre genres pour les autochtones. Mm-hmm. Parce qu'on pour eux, les homosexuels, c'est un genre. C'est weird. C'est marqué comme ça, là. Les autres, ils disent qu'il y a les femmes, il y a les hommes homosexuels. Ouais. Donc,
je sais qu'est-ce que tu
dis. Mais là, c'est ma source, c'est Wikipédia. Là. On donne ça vaut ce que ça
vaut. Il y a des étudiants en médecine qui finissent leurs études avec Wikipédia. Donc.
Ouais, c'est ça.
justement, tu amènes un bon point parce que, te souviens-tu, on a eu un cours en commun où on a discuté de la situation des Amérindiens.
Oui, la bispiritualité.
La bispiritualité, c'est ça, c'est ça.
Mais c'est complètement autre chose, mais c'est le principe d'avoir deux âmes qui nous habitent, une masculine et une féminine, ce qui fait en sorte que, bon,
Une âme est plus forte que l'autre, ouais. Ou elle sort plus, fait que souvent, ça va être l'homme qui a des tendances à un comportement plus féminin, va être tout aussi accepté parce que c'est un esprit. C'est un esprit particulier qui l'habite, puis c'était reconnu.
Mais la bispiritualité, ce qui est intéressant aussi dans les nations autochtones, c'est que c'était considéré comme étant une position honorable.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, ça pouvait être les chamans, les chefs de tribu qui avaient ça parce que c'était considéré comme étant un plus.
Ouais. Sauf que maintenant, plus les temps passent, moins c'est accepté dans les tribus nord-américaines. Mm-hmm. Nord-amérindiennes, excusez. Avant, c'était correct, mais maintenant, il y a plus de ségrégation de tout ça, puis il y a plus de... On dirait que la vision sociale, un peu, qu'il y a eu les espèces de préjugés, s'est rendue jusque-là, puis ça commence à brasser là-dedans.
Mais là, on est en train de baser notre vision sur des peuples qui font la danse de la pluie?
Non, mais ce que je veux dire par là, ouais. Seb, et c'était justement...
C'est un point, par exemple.
La transition que je voulais faire, c'est sûr.
Mais pas la danse de la pluie, mais je comprends ce que tu veux dire, par exemple.
Les patentes de religion, puis de Dieu, puis d'attendre que Dieu les aides, ben, lui donne de la bouffe, ou ben, lui donne de la pluie, Chris.
Non, mais le but c'était de speed, là.
Non, mais c'est pour dire qu'à différentes époques et qu'il y a différentes civilisations dans le monde qui ont leur propre interprétation qui est différente de celle aujourd'hui.
C'est ça.
Mais là où ce que je veux emporter le débat, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est plus à l'ère autochtone, puis on vit dans un monde très tangible et nord-américain. Bon, vous êtes des gens de Montréal. Est-ce que, parce que c'est facile là, de faire des références avec des endroits dans le monde où ils sont peut-être plus ouverts, plus cléments, plus à propos pour accepter ce genre de personnes-là au sein de la société. Comment vous vous sentez aujourd'hui au sein de la société québécoise? Parce que on se dit tout le temps ouvert, hein, les Québécois.
Ça, je disais, ils l'acceptent plus, justement, ça va dans le sens un peu, je disais tantôt.
Êtes-vous des gens qui vous considérez comme des gens exclus ou c'est vivable? Comment vous vous sentez dans la société québécoise d'aujourd'hui?
Moi, personnellement, j'ai l'impression que les gens ont plus de difficultés à accepter ma bisexualité que mon intersexualité. Tout simplement parce que la bisexualité est plus visible si jamais je suis avec une femme à ce moment-là. Donc, parce que si les gens, de un, ne sont pas à l'affût de ce genre de choses, 90% du temps, puis encore là, je sors ça de mon chapeau, mais il y en a plusieurs qui se poseront jamais la question de leur vie.
Donc, toi, Chloé, c'est...
Moi, ça dépend beaucoup des individus. Par exemple, moi, je veux dire, je suis pas une personne qui va contraster dans la foule. Donc, oui, je suis très intégrée dans la société, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille très ouverte d'esprit, et donc il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Par contre, la femme transsexuelle qui a 50 ans, que son apparence est beaucoup plus masculine, elle va faire face à des obstacles beaucoup plus durs que moi j'ai eu à faire face.
C'est vrai. Mm-hmm.
Et donc, c'est dommage à dire, mais les gens jugent beaucoup selon les apparences.
La vie est axée malheureusement souvent sur les apparences.
Et ça peut changer totalement le fait d'avoir une transition heureuse, harmonieuse et tout ça, de vivre quelque chose de très difficile et tout ça.
Et toi, tu as dit que ta famille a accepté ça. Est-ce que tu penses que c'est un facteur clé dans le processus, que ce soit au niveau de la transformation physique, psychologique, c'est-tu quelque chose qui va favoriser là, tout ça? Parce que, tu sais, veut pas, on entend parler qu'il y a des fois beaucoup de suicides chez des gens. Tu sais, comme il y en a qui vivent d'autres difficultés, qui se suicident. Est-ce que c'est des choses qui sont, à un moment donné, insupportables si jamais la famille n'embarque pas dans la parade? Parce que là,
quand t'as pas de sport.
Parce que, la solitude pour les personnes transsexuels, c'est une très grosse réalité. Là. Des gens qui ont perdu leur famille, j'en connais plein.
Mais est-ce que tu dirais que c'est comparable à l'homosexualité ou c'est encore un cran plus élevé?
C'est un cran plus parce que les parents ont à faire plus un deuil encore plus grand de l'enfant qu'ils croyaient avoir. L'homosexualité, je veux dire, OK, mon fils aime les hommes ou ma fille aime les filles, mais ça reste quand même mon fils et ma fille que j'ai toujours connu. Mes parents, eux, la personne qui croyait, il croyait vraiment avoir un fils, là. Il s'en doutait pas. Moi, quand je leur ai dit ça, là, il s'en doutait pas une seconde.
Pas en tout?
Pas en tout. Je jouais très bien mon rôle, disons.
Mais tu dis d'ailleurs que c'est arrivé à 24 ans, mais c'est quoi le déclic qui fait que là, tu dis, gars, là, c'est assez, là, j'embarque dans un processus, justement? Parce que oui, tes parents, t'as une famille qui tu disais qui était ouverte et tout ça, mais je veux dire, à quelque part, t'as un déclic qui s'est fait
ouais,
aussi.
Ouais, ben, je dirais que c'est un espèce de cheminement spirituel qu'à un moment donné, j'ai compris que j'allais mourir un jour. Puis que ça pouvait arriver demain. Puis que. J'en avais juste une vie, donc aussi bien de la vivre comme je veux, puis les autres, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. Puis ça s'est fait comme un déclic totalement. Autant la veille, pour moi, c'était impensable de faire ça. Ça s'est passé presque en une semaine qu'une semaine plus tard, c'était décidé, je m'en allais là, puis je faisais ça en 3 mois.
Puis c'est quoi les étapes? Justement, ça prend quoi? C'est combien de temps avant d'arriver là?
Ça varie. Moi,
c'est propre à chacun, j'imagine.
Ça a pris un peu moins qu'un an.
Okay. Là, on a des mains levées, Duff.
C'est une drôle de chose à dire, mais dans le sens, ça peut être une espèce de chance d'être capable de vivre deux vies un peu dans une.
Oui.
C'est-tu...
La dualité.
Oui, regardez, je vais te laisser parler, je vais juste faire un commentaire, mais moi, personnellement, là, si j'avais la chance de renaître dans une autre vie, je voudrais pas renaître différemment. Je voudrais être encore trans, parce que je trouve que c'est une expérience merveilleuse que j'ai vécue. Oui, ça a été chiant avant. Pendant aussi, ça a été chiant.
Oui, j'imagine. Là,
la perspective que ça me donne aujourd'hui, c'est magnifique. Puis je remercie la vie de m'avoir donné cette chance-là.
On cherchait une statistique par rapport à la difficulté. Il y a, on va laisser le crédit à l'auteur. Monsieur Michael, qui vient de Shefford, a fait une affiche sur... dans le cadre d'un concours pour amour, haine et propagande, qui parle de transsexualité, qui dit justement « L'intolérance tue. 31% des transsexuels se suicident et plus de 50% vont tenter l'acte avant leur 20e anniversaire. »
Ça, c'est dans le cadre de l'émission de Radio-Canada. Hein?
Oui, exactement.
Mais c'est important de le dire.
C'est
parce
une méchante statistique.
Et à quelque part, c'est parce que nos sociétés sont peut-être pas aussi ouvertes qu'ils le disent. Parce que ces gens-là, en fait, puis je veux pas vous catégoriser en disant ça, parce que chaque personne est unique, mais je pense que, comme tu l'as dit, tu veux vivre, c'est juste ça que tu veux faire, en fin de compte. Tu demandes rien d'autre que vivre. Comme une personne qui aura peut-être pas ce processus-là dans sa vie, je veux dire, c'est pas plus grave, c'est pas moins grave, je veux dire, c'est toi, puis après ça, à partir de là, je me demande pourquoi, puis tu sais, c'est sûr que peut-être c'est parce que je suis pas dans le schéma de pensée de ces gens-là. Aujourd'hui, on voit des sorties là, de notre clergé là-dessus. Puis je peux comprendre qu'il y a été une époque où peut-être que le clergé non plus a pas rendu la chose facile à travers ça. On n'a pas parlé de la culture liée à la religion, mais j'imagine que il y a eu beaucoup de difficultés dans nos sociétés par rapport à la religion.
Ça dépend de quelle religion.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça ma question. La religion catholique, est-ce que... Parce que la journée que tu décides de te marier, là, que ce soit Chloé ou Stéphanie, est-ce que... c'est problématique ou c'est quelque chose qui peut se faire si vous cachez votre orientation?
Ça l'impliquerait qu'on soit catholique, ce qui n'est pas le cas.
Non. Okay. OK, vous autres, vous avez réglé la question.
Ben oui.
Oui, mais justement, tu amènes un bon point. Puis Chloé, j'aimerais ça que tu me dises aujourd'hui, que tu répètes, qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui à propos de ce qui est dit dans la Bible au niveau des genres?
Ben, premièrement, je dirais que pour répondre à ta question du mariage, oui, je vais pouvoir marier, pas de problème, parce que je vais dans une église, une dénomination non catholique, on dit protestante, qui accepte l'homosexualité, la transsexualité, pas de problème, le mariage.
Non, mais je posais la question parce que, tu sais, si ça devient un pépin après ça, tu peux pas te marier, puis ainsi de suite.
Regardez, oui, il y a des passages dans la Bible qui condamnent l'homosexualité. Mais premièrement, c'est Jésus en tant que tel. Si tu regardes la Bible, Jésus, il a jamais rien dit contre l'homosexualité ou la transsexualité. Et les livres à l'intérieur de la Bible ou les passages sont dans les mêmes livres qui, dans le fond, disent, par exemple, comment vendre sa fille comme esclave ou des choses comme ça. Donc, on peut prendre la Bible puis sortir ce qu'on veut de la Bible.
Ouais, c'est ça.
Et moi, ce que je disais à tes amis tantôt, c'est que parmi les livres que l'Église a rejetés, qui n'ont pas été inclus dans la Bible, il y a un évangile qui s'appelle l'évangile de Thomas. Et dans l'évangile de Thomas, Jésus dit, il faut que le féminin ne soit plus femelle et que le masculin ne soit plus mâle. Et donc, où Jésus disait, dans le fond, que chaque être humain a une partie féminine, une partie masculine, peu importe son sexe biologique.
Puis, je peux utiliser un exemple d'off, parce que les gens sont un peu au courant. Tu sais, dans le cadre de l'émission, on dit assez souvent l'IMO, tout ça, tu sais, puis tu te souviens, on a déjà pris un appel à un auditeur, puis tu sais, non. Mais je veux juste prendre ton exemple, Dov, parce
que... Oui, vas-y.
puis je pose la question ouvertement, puis on n'est pas obligé d'y répondre, là, chacun autour de la table. Mais c'est vrai que dans l'orgueil masculin, tu sais, on veut surtout pas qu'on fasse référence à une femme, tu sais, quand on se sent, tu sais, quand on, je sais pas si c'est parce qu'on est macho, mais on veut surtout pas qu'on nous prête des émotions d'une femme. Ouais. On a comme peur. C'est comme un peu les vampires. On a peur de ça. Je veux pas dire qu'on travaille à tous les jours à cacher, à camoufler ça. Non. Puis je pense que, tu sais, bon, moi je me sens bien en tant qu'homme, puis ça va. Mais c'est sûr que des fois tu te dis, oh, Colin, si je fais ça, c'est bizarre. On va me prendre pour une femme, tu sais. Je sais pas.
Je pense à un exemple justement. Duff tout à l'heure au restaurant nous disait que il y avait un auditeur, pour pas le nommer, qui venait l'attaquer en disant qu'il parlait 3 octaves trop haut. Et je veux dire, à quelque part, est-ce que c'est quelque chose de mal? Pas vraiment. Tu sais, je veux dire, même je sais pas si c'est le cas parce que bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et moi personnellement, je trouve que ta voix est relativement masculine.
Relativement.
Non, c'est pas. Si on fait de la comparaison, par exemple, avec Seb,
ouais.
Tu sais, je veux dire, Seb a une voix plus grave.
C'est sûr.
Mais ouais, encore là,
je peux te la sortir.
C'est que Duff, t'as pas 3 octaves, finalement, t'en as rien 2 octaves plus haut.
Pour moi, ça va avec le char, j'ai pas de masse d'eau.
Duff, me te la sortir, ma voix, moi, Duff, moi, tu vas en voir avec les os.
Non, mais effectivement, j'ai pas une voix qui est très basse.
Mais Duff, tu comprends ma question, tu sais.
Oui.
Quand on. Des fois, on a ce réflexe-là, et je pose la question parce que je veux pas te dire à soir là, que il faut tout vivre dans l'ambiguïté, là, mais il peut y arriver des moments où le genre est pas nécessairement lié, comme vous dites, à nos organes génitaux, là, tu sais, et pourquoi qu'on veut absolument cette étiquette-là en tant que société? Qu'est-ce qu'on y gagne?
Mais tu dis, définis un peu plus la question.
Ben, je dis, qu'est-ce qu'on y gagne d'offre, que tu sois un homme ou une femme?
C'est de la sécurité. Moi, je me permets de répondre, mais c'est sécurisant que les choses soient claires. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, si j'arrive devant Duff, puis que, bon, se passe quelque chose et qu'on se déshabille, moi, j'aime ça m'attendre à ce qu'il y ait un pénis dans ses pantalons.
And I've got it, baby! I've got it, baby!
Mais c'est vrai!
It's somewhere, but it's there.
Si j'arrive, puis que c'est, si j'arrive, puis que c'est autre chose, moi, personnellement, tu sais, je veux dire, je connais cette réalité-là, ça va moins me déranger que peut-être le petit Joe à côté, mais... Sur le coup, je vais faire comme « Ah! »
Mais
ouais. Quand je fais la part du coucou, c'est moi, là.
mais
tu l'as-tu en plus gros format?
Non, mais t'amènes un bon point parce que... Puis après ça, je t'envoie la balle, Botrax. Tu poses un beau point là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une relation, soit dans un bar quelque chose. Tu sais, quand ça arrive, là, puis que ça se rend jusqu'à la chambre, puis là, whoops, il y en a beaucoup qui vont très mal réagir à ça. Je connais des gens qui ont fait
ça peut être violent.
Il y en a
là.
Qui ont fait des meurtres, oui, là, qui ont tué la personne parce que pour eux, c'était l'insulte à l'injure. Mm-hmm. Le fait que la personne avait pas le genre que eux.
Avait un pénis, maintenant.
Non, c'est...
Il y a encore beaucoup de préjugés, je crois. Puis mais... je pense que notre société comme nord-américaine, qu'on se dit très libre, finalement, on est encore assez macho, je pense, sur certaines affaires.
Oui, puis je pense. On n'est pas si ouvert que ça, mais là...
Je vois pas du tout Botrax.
Je sais. Je c'est pour ça que tu regardes mes mains. Okay. Moi, je pointe.
OK, parce que je m'excuse.
Non, Oxmark l'a dit.
OK.
C'est ça, c'est suffisant.
Mais ce que Stéphanie a dit par rapport à la sécurité ou peut-être l'insécurité, dans le fait, c'est pas mal... on se retrouve avec ça dans notre société. Où ce que si c'est pas clair, ben on n'est pas à l'aise, on n'est pas sécure avec ça. Puis quand on se pose des questions, comme par exemple... on se pose des questions souvent à Radio Jacques Live ou d'autres émissions, ou comme moi je peux dire j'avais une discussion avec le bas Metallo, j'ai dit le monde, on n'est pas à l'aise de vivre dans une zone grise, et c'est malheureux parce que tu sais, faut que tout le temps ça soit noir et blanc, puis malheureusement ça peut pas tout le temps être noir et blanc, puis il faut dealer avec les situations grises, les zones grises, tu sais, faut être capable de pas, mettons, passer des lois ou avoir des façons de faire ou...
Mais t'es élevé, Botrax, que quand t'es jeune, t'es un gars, on te donne un tonka, puis quand c'est une fille, c'est une poupée. Ça te suit, ça.
Ça commence jeune, ça. Ça commence jeune, c'est de la socialisation, puis on force les enfants dans des rôles.
On est construits sociaux.
J'ai l'occasion de travailler avec des enfants en bas âge, et je veux dire, c'est... Moi, personnellement, tu sais, je veux dire, je trouve ça aberrant de voir que, bon, si un garçon joue avec une poupée, on va lui enlever la poupée et on va lui donner un camion.
Mais comme c'est comme je disais tantôt, on veut pas voir ça, tu sais. Un gars qui se fait dire, hey, sur un trait sa personnalité ou sur un trait physique que ça ressemble à une femme. Le gars, là, je peux te dire en affaire, il va tout faire pour...
Je suis allé en Grèce, il y a un gars qui m'a croisé au bar. Ben j'étais insulté, j'étais vert. Pourquoi? Parce que t'as l'impression, du coup, donc, t'as pensé que je suis là, mais fif, c'est quoi? Mais c'est niaiseux, mais on pense de même. Puis, c'est pas ça, là.
Non, non, mais,
comprends,
on peut le dire.
Tu dis, voyons, mais
non,
là, mais c'est normal. C'est des gays à l'extrême partout, là. C'est normal que ça arrive. Mais je veux dire, on n'aime pas ça.
Mais
d'offre, regarde,
je vais te sortir de ta zone de confort. Tantôt, tu nous as posé une question avant 30 secondes avant qu'on arrive en onde. Là, c'est moi qui te renvoie l'appareil. OK?
Quelle question j'ai posée?
Non, mais, regarde, Chloé devant toi.
Oui, oui, vas-y, Chloé.
Puis, regarde. Non, non. Elle, elle a tout d'une femme, là.
Oui.
OK?
Oui.
Tu rencontres ça dans un bar.
On se comprend, là. On se comprend, là.
Non, mais tu fais une rencontre dans un bar.
Oui, oui.
C'est vrai, le ça n'était pas là. Tu n'avais pas d'affaire à être là. Et ça se passe bien. Tu as des bonnes discussions. Tu dis, hey, ça clique à soi, tout ça. Puis là, arrive ça. T'sais, tu
c'est sûr que tu dois faire un... Honnêtement, puis tu comprends, on... Non, tu dois faire un...
Non, non, je suppose
que tu... Oui, mais je m'en cache pas, puis... que oui, là, puis je vais le dire. C'est sûr que oui, tu dois comme être déstabilisé.
Mais comment tu deals?
Je sais pas, honnêtement, je pense que je freezerais puis j'arrêterais ça là. Personnellement, parce que j'ai... Je pense qu'à ce moment-là, pour moi...
Okay.
Je veux pas paraître gauche dans ce que je vais dire. Là. Tu me poses la question froidement,
oh,
je te réponds froidement. Là. Mais tu dis, à la base, même si c'est une femme, qui est une belle femme, puis tout, il n'y a pas de problème, elle a tout ce qu'il faut à bonne place. Tu dis, avant, je sais pas, je pense qu'il y aurait un bug. Je pense, moi, j'aurais un bug.
OK, on va laisser parler Stéphanie, mais après ça, je vais poser une question à Chloé par rapport à ce qu'elle doit faire.
Non, mais justement, on se posait une question, Tess Demi et moi, puis on se disait, tu sais, si jamais t'arrives et que tu rencontres, tu sais, T'as mettons, un gars, le gars, il est vraiment, tu sais, il est shapé, il est super cut pis tout, pis, mais par exemple, il a un vagin. Pis à côté, t'as une fille, justement, comme tu dis, qui a tout aux bonnes places, mais qu'elle a un pénis. Pis t'as, mettons que, bon, vous êtes les trois dernières personnes sur la Terre, pis que vous êtes obligé de, tu sais, comme...
Duff, faut que t'en choisisses une.
Faut que tu choisisses une personne. Tu prends qui?
Ben...
Et pourquoi?
Pas celle qui a le pénis.
Un trip à trois. Mais
non?
C'est bien.
Okay, mais c'est ça, la question est légitime.
Un trip à trois avec deux gars, non, ça m'intéresse pas, ça. Ça m'intéresse.
Non, on parle pas d'un trip à trois.
Ça m'intéresse.
Tu prends une.
On parle pas d'un trip à trois, on parle de tu dois en choisir
une.
Ouais,
mais là, je peux-tu me crosser? Je peux-tu?
On te le permet.
C'est parce que, Duff, si tu te crosses, ça fera pas des enfants forts.
Ben, je suis vasectomisé, j'en ferai pas plus.
Non, mais la question est légitime. Puis,
c'est fourrin. Écoute, mais honnêtement, un pénis, non, oublie ça.
C'est fourrin, oui.
C'est fourrin. Non, mais j'ai un pénis. Je veux dire, j'irai pas vers un pénis. Okay. On s'est entendu là-dessus.
Fait que j'irai vers le beau corps musclé masculin
non, mais
avec
non,
un vagin.
Ça marche pas plus. Ça marche pas. Non, j'irai pas nulle
part.
Je me ferais d'eau calice, puis je calisserais mon camp.
Tu vas aller te noyer dans le fond de l'eau.
Il y a une question d'attirance.
Non, mais. Ouais, mais... Mais c'est, okay, là, tu dis que c'est une femme avec un pénis. C'est sûr que...
Puis on parle de 7 pouces, là, tu sais, vraiment, tu sais, comme...
Avec okay, un bon diamètre, là.
Non, ben, c'est sûr que c'est le corps de femme, que tu t'es attiré vers le corps de femme, mais quand tu vois qu'il y a un pénis, ça arrête là.
Mais
dans mon cas, ça arrête
non,
là.
Mais moi, j'en reviens à ce que je t'ai posé comme question. Il n'y avait rien de ça. C'était que tu rencontres quelqu'un, ça
ben,
clique...
Je te l'ai dit. Et... Quand tu sais que... Je sais pas, ça m'est jamais arrivé.
Mais maintenant, ça arrive. Là, tu me dis... En fait, toi, c'est un peu un blocage, puis
c'est un peu un blocage.
Tu reprends tes souliers, puis tu t'en vas à la maison.
Mais c'est pas pour tout le monde, non.
on va rester amis.
Ta nature reprend ses droits.
On va rester amis.
Je pose la question à Chloé, parce que ça t'est sûrement arrivé, ou pas?
Ça m'est arrivé une fois.
Et comment est-ce qu'on gère une situation comme ça?
En fait, c'est... Bon, premièrement, je dois dire, moi, je suis principalement attirée par les femmes.
Okay.
Ça, on pourra en discuter tantôt, parce que je crois que c'est un mythe aussi qui entoure la transsexualité.
J'ai plusieurs questions là-dessus. Hein.
Mais bon, j'ai eu une expérience une fois avec un gars. Et on en parle et tout ça. Et il était au courant que j'étais trans, puis c'était avant mon opération. Puis il était super attiré. Il disait, il n'y a pas de problème, je m'en fous que tu es trans, tu es une femme. Jusqu'au moment où on est arrivé dans le lit et on s'est déshabillé. Et autant, lui, dans sa tête, il était convaincu que ça le dérangerait pas. Puis il m'avait dit, ça ne me dérangera pas. Quand il a vu la chose, blocage complet, 5 minutes, il s'est rhabillé et est parti.
Mais là, juste pour clarifier, parce que là, il a vu la chose, te dit tantôt.
Non, mais moi, je veux lui, il veut des dimensions. Non,
mais attends, smart. Et Duff, c'est la même chose que tente les jambes, à peu près. Ça doit ressembler à ça.
J'imagine que c'est ça. Mais
c'est ça, cette chose.
Parce que la question qui n'avait pas été répondue depuis le début du show et que je voulais poser, mais j'attendais par rapport à ce qu'on s'était dit un peu aussi en prémisse, c'est que quand tu disais « j'ai subi une transformation qui, pour moi, est complète », est-ce que ça voulait dire que tu avais un vagin? C'est cette question que je voulais savoir. Est-ce que tu es complètement transsexué ou tu es une femme avec un pénis?
J'ai un vagin.
Bon. Donc, ça change beaucoup de choses parce que, tu sais, je veux dire, non, mais c'est parce que, c'est, mais pas pour moi, c'est quoi une transformation complète si on sait pas c'est quoi complet? C'est ça, t'as-tu autant de plaisir sexuellement? C'est sûr que c'est pas un corps de femme au départ, à la base, mais la médecine, est-ce que, mais vous comprenez la question?
Là, je pense que c'est le temps que tu y ailles avec ton graphique, de façon graphique, et que tu lui expliques comment ça marche.
Non, je sais comment ça marche.
Non, t'as pas d'idée.
OK, je parlais avec tes amis tantôt dans l'auto, puis j'ai dit, à un moment donné, à ce soir, là, je vais leur expliquer c'est quoi ce maudit chirurgie-là, qu'est-ce qu'ils font. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fœtus, au départ, puis c'est un peu ça que Steph va vous expliquer tantôt, le fœtus, dans les premiers mois, c'est ambigu, c'est situé entre le mâle et le féminin. Et à la base, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a des hormones qui embarquent, puis ces petites structures-là, soit deviennent féminines ou masculines. Ouais. Donc, le gland et le clitoris, c'est la même structure. Les petites lèvres puis la peau là, du scrotum, c'est la même structure, c'est la même peau. Donc, tout ce que le chirurgien fait, dans le fond, c'est qu'il fait juste prendre ce qui est là puis le remettre à la bonne place.
Il change l'emballage.
Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? par exemple, la peau qui entoure le pénis va l'enlever, va la retourner et va faire le tube vaginal avec ça. Va prendre un morceau de gland, va faire le clitoris avec ça. Va prendre le scrotum, va faire tous les petits détails de la vulve avec ça, ce qui fait que le résultat est réaliste.
Mais est-ce qu'au niveau plaisir sexuel...
Et au plaisir sexuel, j'ai absolument le même plaisir, mais mieux.
T'as plus de plaisir avec un vagin que tu en avais avec un pénis.
Premièrement, pour la simple raison que c'est ce que je veux.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et deuxièmement, que je trouve personnellement qu'un vagin, t'as beaucoup plus de un vagin, une vulve, clitoris, t'as beaucoup plus de possibilité de stimulation avec ça qu'un pénis.
Est-ce que c'est là que tu décides que t'es clitoridienne ou vaginale?
Exactement.
Ça se commande, ça.
À l'opération, tu dis, bon, je vais être ça.
Non.
Tu
le découvres après.
Tu le découvres assez vite.
Et je l'ai découvert assez vite, oui, et voilà.
Mais t'étais un homme.
Oui.
T'as eu des érections.
Oui.
Les érections, tu dis qu'en tant que femme, t'es aux femmes. En tant que gars, t'étais aux femmes.
Oui.
Donc, t'avais des érections normalement à une femme.
Ouais.
Ça peut paraître drôle, les questions. Écoutez, mais c'est des questions, je pense que les gens
pas, j'avais des besoins physiques à assouvir, donc je pouvais masturber et j'avais tout ce qui vient durant le
l'orgasme. T'avais Internet
j'avais
haute vitesse. Ah?
Oui, j'avais Internet haute vitesse.
Un gros disque dur.
J'avais un dossier caché.
Okay. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause. On est déjà à mi-parcours dans l'émission. Et avant d'aller à la pause, j'aimerais vous dire qu'on va passer une petite capsule qui est faite par Influence Média, donc l'actualité au micro-ondes, qui se veut un rappel sur l'actualité de la dernière semaine. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Je rappelle les numéros de téléphone 1-866-497-4728. Que vous soyez n'importe où en Amérique du Nord, il y a toujours le courriel live@radioshocklife.com. Donc, on fait une petite pause, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes à l'antenne de Radio Shock and Friends sur les ondes de XM 172.
Alors, selon Influence Communication...
Actualité au micro-ondes.
38 jours plus tard et avec sur les bras la pire marée noire de l'histoire.
La pétrolière BP tente de colmater la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique.
La pétrolière BP a enfin réussi à colmater partiellement la fuite de pétrole qui souille depuis près d'un mois le golfe du Mexique.
L'échec de cette opération-là ramènerait tous les ingénieurs à la case départ.
La session a été marquée par la volonté d'obtenir transparence sur le financement des partis politiques.
Le gars a une PME. Ah. Sort l'argent de son entreprise en la donnant à quelques personnes qui refont un don, bouche le trou, ferme son budget de campagne.
L'argent, ça veut rien dire lorsqu'on n'a pas confiance.
Mais ça va finir comme ça a commencé, c'est-à-dire qu'il y en aura pas de commission parlementaire.
Le Canada
Canadien reprend le collier demain contre les Flyers de Philadelphie en finale de l'Est.
Le Canadien jouera ce soir au Centre Bell, probablement le match le plus important de sa série contre les Flyers. L'entraîneur Jacques Martin croit que son équipe va rebondir après deux défaites crève-cœur à Philadelphie.
L'espoir de voir la Coupe Stanley revenir à Montréal s'est éteint. Du moins pour cette année, en tout cas.
Le merveilleux voyage que vous avez fait avec votre équipe, le Canadien de Montréal, s'est terminé hier à Philadelphie.
Alors, quand on fait une évaluation de notre saison, comme nous allons le faire dans les prochaines semaines, on va regarder la saison d'une façon globale.
Lorsqu'il revient le choix d'un capitaine, je crois fermement qu'il est nommé par l'organisation, non pas par les joueurs.
Alors, c'est encore une très, très belle journée sur le Québec où le soleil, la chaleur et l'humidité s'accrochent, s'agrippent pour les prochains jours, rien de moins.
La vague de chaleur se poursuit au centre du Québec et de l'Ontario. Le mercure devrait grimper à 31 à Montréal.
Merci beaucoup, on va me reposer, moi.
Radio Choc and Friends. De retour après la pause dans 3, 4, 5 minutes.
Qu'est-ce que t'as dit?
Ben, le temps que les animateurs aillent à la toilette, se lavent les mains et prennent une petite gorgée. Ben quoi, comme toi, ils ont bien le droit de se reposer un peu.
Radio Choc and Friends.
Pour une maison de qualité, faites affaire avec Construction McKinley. Que ce soit pour une maison standard ou de prestige, venez rencontrer notre équipe jeune et dynamique. Gagnante de plusieurs prix Nobilis, nos maisons sont toutes couvertes par la garantie de la PCHQ et nous sommes certifiés Nouveau Climat Select. Plan sur mesure, projet clé en main ou à travaux partagés, nous sommes là pour vous supporter. Informez-vous auprès de nos représentants, nous avons plusieurs développements dans le Québec métro. Consultez notre site internet au www.constructionmckinley.com ou composez le 418-844-3334 pour plus d'informations.
Radio Choc and Friends.
C'est quoi donc l'affaire?
Ben, c'est des animateurs qui parlent avec des amis. Ben, deux gars qui parlent avec des chums. Bon, ben là, si tu saisis pas, écoute donc le show. Ça va être bien plus simple. Radio Choc and Friends.
Eh oui, on est de retour après cette première partie d'émission. Très enrichissante. Et d'ailleurs, on a quelqu'un au bout du fil qui aurait un commentaire pour nous. On a Geneviève. Allô, Geneviève?
Oui, allô?
Oui, t'avais une question pour nos amis en studio?
Ben c'est pas plus une question, ben c'est plus un commentaire et une réaction. Moi, je vais faire un gros punch. Je suis la blonde de Chloé.
Ah oui?
Oui.
Ah, OK. Ben c'est bien, parce que en fin de compte, ça confirme les dires de Chloé quand tu disais que tu avais une orientation vers les femmes.
C'est ça, c'est bien moi, et moi, je suis ce qu'on appelle une cissexuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est né avec un sexe conforme avec son identité.
On
autrement des... dit, quelqu'un qui est non-transsexuel.
OK.
Comment qu'on appelle exactement un cissexuel, c'est ça?
Cissexuel, ou cisgenre.
OK. Ouais. OK.
C-I-S.
Genre. Yes, exactement.
Okay. Six genres. Okay.
On apprend des gros mots ce soir.
Pas comme le chiffre, là.
Non, mais c'est non. Ça. C'est pour ça que j'avais comme six genres. Je comprenais pas, mais.
Et vas-y de ton commentaire. Tu voulais-tu nous parler un peu de l'aspect physique de la chose en voulant dire que c'est aussi réaliste que Chloé nous le disait? Parce
on
que,
parle de performance, là.
Non, on parle pas de performance.
Ben oui, c'est sûr que je vais commenter là-dessus. Puis je vais aussi commenter sur le débat à savoir. Est-ce que c'est mieux de choisir un gars avec un vagin ou de choisir une femme avec un pénis? Et moi, là, je vous réponds à cette question-là que je choisirais sans hésiter la femme avec un pénis parce que moi, j'ai sorti avec Chloé avant son opération. Puis moi, là, côté sexuel, là, ça se passait très bien. C'est sûr que ça se passe encore mieux maintenant qu'on a toutes les deux les organes génitaux dans lesquels on est bien. Mais avant, ça se passait très bien aussi. Et c'est ça, c'est juste que j'avais pas besoin de voir cette partie-là d'elle que je savais qu'il lui appartenait pas puis qu'elle allait changer éventuellement. Fait que moi, je peux dire que... Là, je vais citer Stéphanie ici. Il y a une échelle de l'orientation sexuelle qui a été développée par un chercheur qui s'appelle Kinsey, qui dit que il y a une échelle de 1 à 6. À 1, t'es exclusivement... hétérosexuel, si je pense que c'est zéro.
Ouais, c'est zéro,
ouais. Cis, t'es exclusivement... Merci. Cis, t'es exclusivement homosexuel. Moi, je dirais que je suis à 7, puis Stéphanie pourrait approuver.
OK. Et,
c'est du genre, elle se présente aux gens, puis elle dit bonjour, je m'appelle Geneviève et je suis lesbienne. Ouais. Des fois, elle inverse les deux.
Non, je suis lesbienne
deux.
Et je m'appelle Geneviève.
Ouais, aussi.
OK. Mais je te pose la question, je veux pas abuser du temps là, que tu nous consacres là, avec ton appel, parce que je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés, parce que tu avais Chloé à vivre avec ce cheminement-là particulier. Tu l'as dit, t'as été une grande époque de ta vie où tes parents et ton cadre familial faisaient en sorte que t'étais un homme, là, maintenant une femme. Je veux poser la question parce que comment on se construit une vie amoureuse? Vous êtes donc, vous avez une vie de couple, vous êtes des gens qui vous épanouissez un et l'autre. Comment on en arrive à ça? Est-ce qu'on doit s'inscrire à une association particulière où on peut faire ce genre de rencontre-là, comme monsieur, madame, tout le monde? Là?
Dans un subway?
Dans un subway?
Ben oui.
Oui, mais c'est là qu'on s'est rencontrés, mais c'était avant une rencontre de groupe communautaire, justement. Comme les gays et lesbiennes peuvent difficilement croiser dans la rue parce que l'orientation sexuelle n'est pas écrite sur le front, et
effectivement,
tu as moins une chance de prendre quelqu'un qui est attiré vers son propre sexe. Pour les personnes transsexuelles, c'est la même chose. Se rencontrer dans les groupes communautaires, c'est un très bon réseau pour se faire une blonde ou un chum, puis c'est ça qui nous est arrivé. Moi, quand j'ai vu Ellie, je savais tout de suite qu'elle était transsexuelle, puis moi, j'ai fait comme « Ah oh, bon? » Puis ça m'a jamais rien... Moi, les questions, là, puis tous les cheminements de questionnement de « Est-ce que je suis vraiment lesbienne? » m'étaient pas arrivés parce que j'étais arrivée à un point dans ma vie où je dis « Je suis tellement... je suis tellement fière d'être lesbienne, justement, que je suis attirée par toutes les femmes, peu importe le camp dans lequel elles sont nées. » C'est ça, l'affaire. Puis c'est pour ça que ça m'a surpris les propos de Dorf, je pense, de l'animateur.
Oui. Mais en
fait, voilà, je vais apprendre à vous connaître. On n'est pas, c'est pas tout le monde qui est comme ça.
C'est peut-être des concepts qu'on a eu aussi. Je veux dire, tu sais, c'est, je l'ai jamais vécu, mais honnêtement, c'est oui, je pense qu'on se sent comme tu dis, ben là, t'es un peu, ça marche. Tu comprends-tu? Il y a comme une ambiguïté qu'on n'est comme pas capable de gérer. Toi, tu la vis. Mais moi, je la vois, mais je l'ai. Quand tu l'as pas vécu.
Mais pour aller
quoi?
À ta défense d'off aussi, on pose des questions qui somme toute, sont des questions qu'on imagine que notre auditoire voudrait peut-être des fois aussi explorer. Donc, oui, effectivement, je pense que c'est bien d'amener les défis qu'on fait ce soir puis les questions qu'on pose. Mais je suis content d'entendre Geneviève qui dit, ben regarde, pour moi, ça posait pas de problème. Je me suis jamais posé cette question-là. En fin de compte, pour elle, c'était comme n'importe quoi d'autre. Je veux dire, t'avais pas de barrière ou de choses à surmonter qui étaient peut-être pour quelqu'un qui est peut-être à l'échelle zéro plus importante.
Puis encore là, elle me le disait au début de notre relation, mais moi j'avais encore des gros doutes.
Tu doutais?
Ben, parce que je me disais, ouais, elle a bien beau dire maintenant, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'elle va me faire le même coup que l'autre Joblo la dernière fois quand elle va, tu sais? Donc, mais Claire, elle m'a accompagnée à travers tout ça, la chirurgie, elle m'a accompagnée à travers ça. Et...
Donc, c'est un peu ta famille aujourd'hui, par extension, dans ton processus, là, qui... Et somme toute, vous avez une vie qui s'étend justement à votre famille. Vous devez avoir des parties de famille comme moi j'en ai, puis c'est donc accepté aussi par votre entourage, là.
Mais encore là, l'autre chose aussi qu'il faut pas oublier dans le cas de Chloé et de Geneviève, c'est que le fait le plus important à retenir, c'est que Geneviève fait déjà partie d'un groupe qui est marginalisé aux yeux de la société.
Oui,
donc, veux pas, quand t'es... Je dirais pas quand t'es habitué à être discriminé, mais tu sais, quand t'es déjà dans un groupe qui se fait discriminer,
veux pas,
ça te crée une ouverture d'esprit qui te permet d'être sensibilisé à ces choses-là, mais en même temps, d'avoir une réaction qui va peut-être être différente de la population en général.
Mais c'est ça, mon but n'est pas de dire « moi, je suis meilleur » ou « telle autre personne est meilleure », tu sais, on est tous qui on est. C'est juste que, comment dire, l'orientation sexuelle n'est pas... Mon point était que l'orientation sexuelle n'était pas toujours liée à l'attirance envers les organes génitaux. Puis même, l'identité... Si on peut aller très loin, là, il y a des... Par exemple, il y a des femmes qui se sentent femmes, qui sont heureuses d'être femmes, puis qui aimeraient ça avoir un pénis, puis...
Pour aller dans le bois, c'est plus pratique.
Comme on a dit au début de l'émission, être homme, être femme, ça veut tellement rien dire. Il y a tellement de définitions que... d'exception qu'on pourrait...
Mais je vous pose la question, Chloé, Geneviève, Stéphanie, vous savez qu'il y a une grande partie de la population qui est pas extrêmement ouverte d'esprit. Comment? Parce que moi, je veux dire, c'est un cheminement aussi. Hein. Moi, là-dedans, quand j'ai commencé à lire là-dessus, je commençais à me remettre en question sur le fait pourquoi j'ai toujours tendance à vouloir mettre une étiquette et pourquoi je me sens forcé d'en mettre une. Pourquoi que, pour moi, on n'est pas tous des êtres humains, puis à quelque part, on choisit notre orientation sexuelle, on choisit notre identité sexuelle, et pas plus grave que ça, je veux dire, ceux qui aiment...
Mais en même temps, ça Smart, c'est que... Tu dis justement pourquoi je mets des étiquettes. Nous autres aussi, on s'en met des étiquettes, puis c'est sécurisant, mm-hmm. les étiquettes. Tu sais, je veux dire, d'un côté, personnellement, j'ai jonglé longtemps entre hétérosexuel, tu sais, lesbienne ou bisexuel. Puis, tu sais, je veux dire, bon, pour l'instant, ce que je me dis, c'est que je suis une personne qui aime d'autres personnes et que, bon, tu sais, comment elles sont, ça va venir après dans le questionnement. C'est juste ouais, c'est que, ça. Bon, à la base, ça a l'air d'être une définition pour bisexuel, donc c'est l'étiquette que je m'approprie. C'est juste que c'est difficile de ne pas se mettre des étiquettes. La première chose qu'on fait à la naissance d'un enfant, c'est d'y mettre une étiquette, ouais. un nom, un sexe. C'est la première chose.
Et un numéro d'assurance sociale.
Oui, également, également.
Un tongue cup et une poupée.
Avais-tu autre chose à rajouter, Geneviève?
Oui, ben au niveau de la, ben je vais pas embarquer dans les grosses,
non, vas-y.
Parce qu'on a appris assez de gros mots aujourd'hui. Mais moi, à la base, là, j'ai lu beaucoup en sciences humaines, puis la psychologie sociale a montré que pour qu'une majorité reste au pouvoir, mais une étiquette c'est très puissant. Oui, on en a tous besoin. Fait que dans le fond, moi je dis qu'il faut faire un équilibre entre étiquette et identité. On a tous une identité, mais en même temps, il faut avoir comme, ben il faut. C'est un idéal de vie. D'avoir, je trouve, une flexibilité par rapport à ces étiquettes-là, tu sais, de dire, moi, je suis comme ça, d'autres personnes sont comme ça, puis d'accepter qu'il y a des personnes qui rentrent pas dans aucune étiquette.
Oui. Ben, je pense que c'est le message. Puis, tu sais, quelque part, je veux pas dire que demain matin, Dof, je vais commencer à te trouver sexy sur ton profil, là, c'est pas ça.
Mais, t'aurais le droit.
Mais non, mais c'est parce que c'est
pourquoi
ça.
C'est toujours
non,
par rapport
je ramène l'exemple.
Mais
parce que c'était trois octaves.
Non. The vedette du show.
Non, mais ce que je veux dire par là, Dof, c'est que, tu sais, on a des fois des difficultés entre gars. Tu sais, je peux pas, tu sais, hey, je te trouve beau, je te trouve cute. Tu sais, je dirais ça, tu sais, hey, là, mon.
Je te l'ai dit, je te trouve pas mal belle avec ta chemise.
Mais. Peux-tu vite faire une
parenthèse? Deuxième, il va en prendre une.
Non,
je pense
que tu peux plus. T'as passé ton quota.
Oui, ça a l'air. Hein?
Mais vas-y.
C'est
là,
parce que.
On fait signe. Là,
c'est parce que, c'est ça, c'est parce que le vin est en train de couler en studio. Là, puis,
Ah, je savais pas. Des verres.
Mais c'est parce que c'est des verres de carton à dos.
Si j'ai acheté de la merde,
c'est
oui,
pas
je
grave.
Savais pas que ça faisait.
Mais
de la
moi,
merde.
Il coule pas le vin.
Bois-le vite, ça se fait.
OK, on coupera ça dans le montage.
Mais tu comprends, Dof, c'est que.
Ouais, mais on est capable de dire un gars parabain. De dire qu'une fille paraît bien.
Ah, mais juste
moi, il y a Dof, il paraît bien. Okay. Je disais, hey, il paraît bien.
Ouais. Dof, il paraît bien. Il a un beau profil. Il a une belle taille. En plus, il est shapé comme un Christ.
Ah, puis il est célibataire aussi. Il va voir. Il doit pas être super tant que ça.
OK, juste vite.
On a un commentaire.
Ouais, en fait, juste, hey Dof.
Oui.
Juste vite. Moi, je suis quelqu'un qui est très confortable dans sa sexualité. Puis je sais que je suis aux femmes. Puis je me considère lesbienne. D'ailleurs, je me considère concentré. Hein? Vous regarderez ce que ça veut dire con dans le dictionnaire, puis moi vous constaterez que moi je suis concentré. Puis je veux dire, moi j'ai pas de difficulté à dire Dof, t'es un beau mec là.
OK, mais là, je vous demande
puis,
pas.
Puis je pense que pas mal tout le monde pas mal des filles qui sont ici vont peuvent être d'accord avec moi, j'imagine.
Merci, vous êtes bien gentil, mais je suis pas sûr
mais
que je demande.
Ce que je veux dire c'est que j'ai pas de difficulté à dire. Tu sais, c'est parce que je suis confortable avec moi-même. Ça m'attirera pas, je suis pas attiré par toi, ben mais je suis capable de le dire.
Non,
puis ça, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis à une étape de mon développement personnel qui me permet de dire ce genre de choses-là.
Mais remarque, okay? Je fais pareil. Moi, je vois, tu vois du monde, t'es capable de dire, il paraît bien ou
non,
il paraît
non, je sais, Dof,
bien,
mais sans personnaliser à toi ou à Tess Demi, tu comprends qu'il y a des gens aujourd'hui qui c'est loin de ça. Là,
non,
t'sais.
Mais c'est définitif, ben oui, parce que toute allusion à ça peuvent penser que
ben,
ça fait
c'est
gay.
Ça. Suite.
C'est définitif. Là.
Ouais, mais moi, je lui laisse penser ce qu'ils veulent.
Tu sais, je veux dire, Chloé et Geneviève, quand vous vous promenez sur la rue, est-ce que vous sentez un regard des gens?
Oui.
Oui, j'imagine.
Surtout qu'on est très visible. On se cache pas. Et, mais autant des regards. Autant que certains, il y a des regards qui sont comme désapprobateurs, autant les gens sont émerveillés de nous voir.
Est-ce que ça va jusqu'à. Est-ce que ça va jusqu'à peut-être, des fois, reconsidérer le voisinage? Habillez-vous dans un quartier où vous êtes plusieurs? Parce que, tu sais, à Montréal, quand on. Puis dans les grandes villes, il y a tendance à avoir, comme les Italiens le font, comme les Chinois, tu sais, des fois, les homosexuels, les transsexuels, tout ça, vont habiter dans un quartier. On sait qu'à Montréal, il y en a un, on ne peut pas se cacher de ça. Mais c'est pas votre cas, là. vous restez dans une banlieue comme monsieur, madame, tout le monde.
On reste sur le plateau Mont-Royal et je veux dire, on habite dans un logement, on connaît personne dans notre logement, le logement ne nous connaît pas, donc c'est
comme
pas un problème.
Monde à Montréal.
C'est très typiquement montréalais, effectivement, notre situation.
OK. Non, mais je pose la question parce que, tu sais, vous m'apparaissez comme des gens qui assument pleinement aussi votre vie, fait que des fois, il y en a qui vont jusqu'à s'établir dans des quartiers où, tu sais, ils vont dire, écoute, moi, je vive avec le regard à tous les jours. J'aime mieux aller dans un quartier où, puis à Montréal, il y en a maintenant des quartiers où il y a des bars spécialisés pour ça. Est-ce que vous avez changé vos endroits de fréquentation, les restaurants, les bars? Ou...
Je dirais personnellement, moi, que le problème que j'ai avec certains bars qui sont spécialisés, c'est que ça attire pas juste la clientèle spécialisée, mais la clientèle qui recherche cette spécialisation-là.
Ah oui.
Okay, on entre dans un autre sujet, c'est que, veux pas, bon, on parlait tout à l'heure, il y avait l'auditeur qui parlait de Chimel. Il y a beaucoup d'hommes, puis là, je généralise en parlant d'hommes, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est ça, d'hommes qui recherchent ça, exactement. Puis je veux dire, d'un côté, c'est que quand la personne est dans un processus transsexuel ou de transition qui va changer ses organes génitaux, si l'homme cherche une femme avec un pénis, littéralement, c'est que de un... Est-ce que ça va faire une relation saine? Est-ce que la personne
non,
va pas être
ça,
concentrée
ça va...
sur le génital? À ce moment-là, ça fait que ces bars spécialisés-là sont peut-être pas le lieu privilégié d'une rencontre sérieuse.
Parce que c'est ce que vous recherchez, là, tu sais,
comme n'importe qui.
Comme n'importe qui.
Exactement ce que j'allais dire.
Femme, homme, enfant, chien, demi-clôture, là.
Je le dis.
C'est la demi-clôture en particulier, moi.
Là. Ouais, ben c'est ça.
Non, mais je le dis parce que vous savez qu'il y a une partie de la population qui caractérise ces gens-là en disant, ah, écoute, c'est des déviés, ben, tu sais. Parce que.
Ben, il y a une déviance.
Ben, quand j'ai lu sérieusement sur Wikipédia et je me demande ce que ça fait là, tu sais, on utilisait des termes qui m'ont troublé.
Exemple.
Parce que, ben, maladie mentale, on a associé le
SMART, c'est une réalité. C'est jusqu'à présent, à l'heure où on se parle, les troubles de l'identité de genre, c'est une maladie mentale. C'est dans le DSM-4 qui est la bible des psychiatres.
Ah oui, je savais ça.
Mais la raison pour laquelle c'est dans le DSM-4, c'est vraiment clair, c'est que si c'est une maladie, ça veut dire qu'il y a un traitement.
Et
le traitement, bon, c'est justement les hormones, les chirurgies et tout ça, ce qui fait en sorte que ça permet un accès à des soins, tandis que si c'était enlevé de ça, et là, bon, il y a tout un débat parce que le DSM est en révision pour la 5e édition, et il y a un débat, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on l'enlève? En France, ils ont décidé de l'enlever dans leur standard, donc à ce moment-là, l'ayant enlevé, pour l'instant, j'ai cru comprendre que les soins existent encore, mais on n'a pas de preuves tangibles que ça va rester.
Est-ce que ça se pourrait pas que ça soit un développement inachevé?
Un
développement, mettons, t'as les extrêmes. Homme, extrême. Femme, tel qu'on le sait, les conçoit, normalement. Puis que quelque chose in between, vous avez arrêté là.
Ben,
il y a
des théories qui s'avancent là-dessus. Ben, premièrement, moi, je suis clairement un cas de genre in-between dans le développement qui a arrêté à quelque part. Mais ce qui arrive, c'est que il y a une théorie sur laquelle, bon, on dit, puis encore là, plusieurs personnes disent que il y a le cerveau masculin et le cerveau féminin. Et là, bon, on fera pas de blagues sur la grosseur du cerveau et comment il est utilisé, mais c'est une théorie qui tend à être prouvée que plusieurs personnes transsexuelles auraient justement un cerveau dont le genre ne correspond pas au corps physique biologique.
Fait qu'il y a comme un mix-up d'hormones, quelque chose qui se passe dans le milieu. Là.
Geneviève, t'es encore là?
Ben oui, je suis encore là. Personne ne m'a dit genre bye-bye.
Ah! Non, OK.
Vas-y.
Ben, j'ai un commentaire à ajouter là-dessus. Il y a beaucoup d'études qui ne vont pas dans ce sens-là aussi.
Ben, comme n'importe quelle étude, il y a une étude qui tend à prouver le contraire.
Ben, du monde
ben
pense
oui,
que les gens
mais
de la planète
c'est ça pour dire que faut pas, tu sais, quand c'est une étude ou plus, quelques-unes, faut toujours prendre ça avec des pincettes, tu sais. Puis moi, personnellement, je trouve que il y a tellement de théories qui ont été avancées en psychobiologie pour trouver des causes biologiques de toutes les formes de sexualité, puis même les formes de pathologie sexuelle, puis il y en a tellement plusieurs qui sont pas arrivés à un lien clair. Puis moi, je me dis tant mieux parce qu'on les saura oui. pas les causes. Puis c'est pas ça qui est important.
Oui.
L'important, c'est l'acceptation de la diversité qui est là.
Mais par exemple, Geneviève, je t'interromps. L'important, par exemple, c'est que souvent, quand tu arrives à expliquer grand-père, grand-mère, monsieur, madame, tout le monde, est-ce que c'est pas plus facile de justifier le traitement de par sa cause?
Ah oui, c'est sûr.
Tu sais, ou plutôt de dire, ah ben c'est parce que je me suis levé ce matin-là, puis j'ai décidé que mon corps, c'était plus mon corps, puis que j'étais pour faire ce que je veux avec, puis...
C'est bien beau les patentes d'acceptation, puis tout, puis on est bien contents, puis d'ouverture d'esprit.
Mais t'as l'air à voguer avec ça!
Non, mais à quelque part, il y a une cause. À tout effet, il y a une cause.
Mais le point...
Il y a quelque chose qui se passe qui cause quelque chose.
Pour l'instant, il n'y a pas de consensus scientifique sur les causes.
Ouais, mais il faut qu'il y en ait un.
Non, mais oui, OK, peut-être qu'il va...
Dans l'absolu
le futur,
des choses, là, l'objectif, là, toute chose est causée par quelque chose.
Peut-être que dans le futur, oui, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là.
Mais Seb, si tu penses comme ça, qu'il y a absolument une cause, tu sais, on peut t'en inventer une cause, là, tu sais, puis...
Non, mais je veux la vraie, moi, là.
Non, mais regarde, il y a une phrase qui est très importante que j'ai lue, OK? Et puis je trouve que ça résume bien, là, le processus aussi. Et j'ai trouvé ça au niveau des transsexuels. Ils disent, les transsexuels n'essaient pas de changer de genre, mais seulement de sexe. À la base, c'est ça.
C'est comme si le sexe fait défaut par rapport à...
Tu sais, je veux dire, qu'est-ce
qu'il y a... C'est littéralement ça.
Et c'est là-dessus que je voulais aller, c'est de dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire que je suis une femme, mais que mes organes génitaux sont celles d'un homme, puis que je veux les remplacer? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
Pourquoi... C'est pas une invention de l'esprit, ça, tu sais. Pourquoi je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, puis j'ai tendance à penser ça dans certains cas.
Oui et non, Seb. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à accepter? C'est comme la... Oui, on est rendu peut-être au niveau des valeurs, au niveau de la foi, tu sais, à quelque part, mais...
Non, c'est un développement qui a stoppé quelque part dans le milieu. Le corps est allé d'un bord, puis l'esprit est allé de l'autre.
Oui, mais je veux dire, Chloé, on peut pas l'ouvrir, on peut pas voir dans sa tête, tu sais, y a-tu une couleur?
Sauf qu'il doit avoir une cause qui grossit à quelque part, non, là. Mais... Elle l'a dit tantôt, on porte tout pareil. OK,
oui, mais
correct,
c'est...
mais il y a une divergence qui se passe à quelque part.
Ouais, l'esprit d'une femme est pas rose, puis l'esprit d'un homme est pas bleu, là, tu
sais. Ah non?
C'est plusieurs.
C'est plusieurs. Il y en a justement. Je prends l'association de support américain des enfants trans qui disait justement nos enfants sont pas bleus ou roses, mais plutôt plusieurs teintes de mauve. Oh. Mais c'est dans le sens où est-ce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans le processus, avant d'arriver à OK, ben demain matin, je m'en vais me faire opérer, il y a un processus psychologique aussi. Puis c'est requis, je veux dire, il n'y a pas un chirurgien qui va faire comme « Ah, t'as de l'argent, ah, tiens, ok, ben c'est bon, on va faire ça. » Il y a quand même un suivi psychologique, puis encore là, on parle de minimalement 6 mois de psychothérapie.
Ben, c'était dans tes questions, Duff, hein, je pense, l'encadrement psychologique.
Oui, maintenant. Effectivement, l'encadrement psychologique.
Êtes-vous mais... des gens qui sont suivis par des psychologues? On pose la question bête comme ça, là, mais...
Pour ça spécifiquement.
Oui, pour ça spécifiquement.
Okay. Ah ouais, ben, je le recommande à tout le monde, moi, personnellement.
C'est clair que si il y a un document qui est connu mondialement qui s'appelle les Standards of Care, il y a un marché à suivre, puis ça prend 2 lettres de 2 psychologues qui t'ont suivi pendant un certain bout de temps, qui se sont assurés que c'est là depuis longtemps dans toi, que c'est sérieux, que
c'est pas une autre pathologie.
Que c'est pas, par exemple, que tu fais...
C'est pas un triple
que c'est vraiment
une autre
quelque
maladie,
chose.
Là.
Et ils ont des guidelines très
non, mais il faut le dire, parce qu'il y a des gens, des fois, qui pensent qu'on peut décider ça du jour au lendemain, puis qu'on se présente à une urgence, puis que, c'est urgent, faut que je sois un homme demain matin.
Ça se fait pas de même,
pas comme ça. Puis on s'entend que votre cheminement a été progressif là-dedans, puis c'est justement une étape qui en amène une autre, puis que du jour au lendemain, vous avez passé à travers tout ça, puis aujourd'hui, bon, on parle à Chloé, qui est toi, c'est... dans un processus, comme tu dis, selon les standards que chaque individu a, qui peut paraître assez complet, versus toi, Stéphanie, qui incessamment va passer à l'autre étape un peu plus formelle au niveau de ton corps. Veux pas, vous êtes des personnes qui continuent à évoluer dans un mode de vie où vous pouvez pas toujours non plus avoir un psychologue qui... Je pense que, à quelque part, vous avez votre personnalité, puis aujourd'hui, vous l'assumez. En tout cas, à vous voir, je pense que c'est le cas. Là, j'ai des mains levées. Qui s'est levé à main en premier?
Duff en premier.
Duff, vas-y.
Je peux pas dire, mais je pose une question au Strike Pipe de même. Vous avez eu... Ben, Chloé, tu as eu l'opération, OK?
Oui.
Là, je ne veux pas faire de généralisation ou quoi que ce soit. Je mets ça dans un contexte que tout le monde qui écoute peut se poser la question. Tu étais un homme. tu as eu graduellement l'opération qui a fait que tu es
non,
devenu...
c'est ça, Duff, l'erreur est là.
Non,
un homme.
Non, non, mais physiquement, je parle. Okay. Ils vont s'en faire smart, là. Elle avait un pénis.
Si on généralise...
on peut juste mettre les vrais mots dans la bouche.
Si on généralise physiquement, oui.
Bon, OK.
Tu peux mettre un pénis dans...
Non, mais c'est important.
Je sais que c'est important, mais les gens comprennent
bien. Non, mais si toi, c'est une femme.
Je te dis
que t'es une femme.
Non, mais je te vois dire, je suis pas une femme.
Regardez. Je suis quand même capable d'assumer le fait que pendant 24 ans, je vivais en tant qu'homme. Puis quand les gens me demandaient « t'es quoi, toi? » Ben, je disais « je suis un homme ». Je suis capable de l'assumer, même si c'était un mensonge, je suis capable d'assumer que c'était
physiquement,
ça.
Physiquement, tu représentais un homme.
Puis même socialement, socialement, j'étais ça. Fait que je suis capable de l'assumer, ça.
Donc, la question est, puis j'essaie de parler peut-être pour tous les gens qui nous écoutent puis qui se posent la question, c'est que tu as subi, parce que bon, on parlait que c'est à peu près un an, donc peut-être que ce serait bon tantôt que tu décrives un peu comment que ça se fait, parce que je sais qu'il y a des hormones qui embarquent là-dedans, après ça, tu as vraiment les changements radicaux, les opérations et tout ça, mais au moment où tout est terminé, que tout est fait, une personne transsexuelle, je veux dire, qui pas pour la première fois, mais tu sais, qui en arrive au résultat final, oui, à ce moment-là, le corps représente ce que ton esprit est, parce que tu as toujours été une femme en dedans de toi, mais je veux dire... C'est quoi le flash qui te passe par la tête en disant waouh, enfin je suis libéré de tout ça, ou comment ça se produit? Je sais pas si tu comprends un peu ma question, c'est peut-être un peu une naïf ou mal placé, là, je sais pas.
Le plus gros flash, c'était pas l'opération, c'est la première fois que j'ai été travailler avec ma nouvelle identité dans un nouveau milieu de travail qui connaissait rien sur moi. Ça a été la première réalisation que là, wow, c'était ma vie normale, ma vie ordinaire de tous les jours, d'aller travailler puis
tu recommençais ta vie, mais du bon côté.
Ça, c'était la grosse réalisation que je réalisais comme « wow, c'est merveilleux ce que j'ai accompli, puis j'étais fière. » La chirurgie, c'était plus un aboutissement, c'était comme...
Le final.
Un moyen.
C'était pas comme la grande finale majestueuse, c'était plus comme la fin.
Où
je faisais la chirurgie.
Ça, tu passes par là,
puis, évidemment, après, c'est fantastique parce qu'on apprend à finalement découvrir son corps, puis se l'approprier, puis se sentir bien dedans, se sentir belle, se sentir sexy.
On a déjà Geneviève qui nous manifeste tout son consentement.
Moi, j'étais une femme avant ou après l'opération. Je me sentais pas plus femme après l'opération. Moi, le jour où je suis allée travailler en tant que femme, ça y était, là.
C'est juste que l'image physique fitait avec ta pensée, ton minding à toi, c'est ça, dans le fond. Les gens voyaient ce que toi, t'étais.
C'est ça.
Dans le fond, on peut pas voir ce que t'es si physiquement, ça représente pas ce que toi, t'es. C'est un peu
oublié, bravo, Duff.
Mais c'est pas pire, hein? Ouais. Wow. Il y a même de rien, mais il est pas pire des voix de
pareil. Et après ça, tu viendras nous dire que toi, l'apparence, c'est pas important.
Ben, non, c'est important, je m'en cache pas. Hein. Je m'en suis jamais caché.
Il
n'y
a pas une question d'importance, effectivement. C'est la carte de visite et ça peut mettre la table.
C'est la première chose qu'on voit.
Ben, c'est un peu important parce que quand on vit dans une société qui a besoin d'avoir des labels, des étiquettes, qui ont peur des zones grises, ben, tu sais, ça devient un petit peu important. Tu sais, quand je regarde. Des sociétés, quand on parlait du catholicisme puis différents préjugés ou des différentes façons de voir les choses qui nous sont données par ça. Moi, je regarde comme par exemple les Philippines. Moi, j'étais vraiment surpris qu'eux autres, ils vivent du christianisme vraiment comme nous autres, on vivait il y a 50 ans de ça. Vraiment, là, ultra, là, vraiment orthodoxe christianiste, là. Puis, ou catholique encore. Puis c'est vraiment bizarre que d'une culture à l'autre, on peut avoir des différences où ce que eux autres, l'homosexualité, là, c'est sûr qu'on rentre pas là, tellement dans le même sujet, mais c'est comme c'est pas mal vu, c'est pas OK, c'est beau, tu sais, les femmes qui sont lesbiennes, mais ils s'habillent comme des hommes, puis ils jouent le rôle de l'homme, puis ils sont en couple avec des femmes, puis blablabla, tu sais, je veux dire, c'est nous autres, ça nous a pris du temps quand même à l'accepter plus, mettons, qu'une autre culture comme ça. Mais moi, j'avais une question. Quand on parle du suivi psychologique avec un psychologue, c'est un psychologue ou...
Psychologue, sexologue, psychiatre,
Pour répondre à la question potentielle pour ceux qui, justement, qui se posaient la question, qui voudraient peut-être embarquer dans un certain processus, ces genres de suivis-là, d'opérations médicales, c'est-tu des frais personnels ou s'il y a des choses qui sont couvertes?
Oh! Alors, je vais parler pour moi, là. J'ai tout payé. À part les hormones, étant donné que c'est un médicament, c'est couvert par les assurances médicaments, j'ai tout payé.
Ça peut coûter quoi?
Le psychologue, on parle de dizaines de rencontres à 100 $ la rencontre. On parle de l'électrolyse pour enlever les poils au visage, on parle de 3 000-4 000 $. Et on parle aussi de la chirurgie, qui à l'époque, dans mon temps, il y a 2 ans, n'était pas remboursée, 16 000 $.
Donc j'ai une affaire de 25-30 000 $.
Oui. Mm-hmm. Mais ce qui est le fun, c'est que aujourd'hui, est couverte la chirurgie. Ça a changé depuis un an.
Okay.
Oui, vas-y, okay. Daniel.
OK, tantôt, Batrax, tu parlais justement de...
Des mœurs.
Les mœurs dans les Philippines. Ça m'amène à répondre à la question...
Que Rénal nous avait parlé la semaine passée.
Exactement. Monsieur Duberger a parlé de comment est-ce que c'était lui. Il est allé faire une croisière dans les en Polynésie. Puis il me posait des questions à propos des rérés. En fait, c'est parce que le mot m'était pas familier, mais finalement, j'ai vu c'est de quoi qu'il parlait.
Ouais, parce qu'il utilise les rérés et les maous.
Les maous et les rérés sont deux choses différentes.
C'est ça.
Puis là, c'est ça, pour répondre à la question de M. Duberger qui se demandait qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait là-bas dans le niveau de la société, c'est quoi la différence. Parce que selon lui, il n'y avait pas de différence, de ce que j'ai pu comprendre. Dans la société polynésienne, il y existe depuis longtemps. Là, on parle de possiblement plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années, voire un millier d'années et peut-être plus. Une acceptation sociale dans les îles de Polynésie, les Samoa, etc., que il y a des gens qui vont se sentir, mettons des hommes, qui vont se sentir femmes en dedans d'eux. Ils vont s'habiller, ou ils vont le vivre, ils vont rester. Des fois, il y en a qui vont s'habiller, qui vont rester mâles, à l'apparence mâle. Ils vont porter du linge à identification mâle, etc. Mais ils se sentent femmes et ils s'identifient comme femmes auprès des autres. Et pour la société, les Maou, qui eux sont connus depuis longtemps, pour eux, c'est une acceptation sociale qui définit le troisième sexe dans cette société-là. Puis c'est hautement respecté. Ces gens-là
ils ont même des privilèges.
Exact.
Parce qu'ils sont recherchés au niveau de l'hôtellerie, des restaurants.
Ouais, c'est ça.
Donc parce qu'ils sont des gens qui ont, pour eux, c'est un troisième genre. Et les Maou, pour avoir vu les photos que Rénal nous a envoyées, c'est un peu le genre de pas de drag queen, mais tu sais.
T'as l'impression que c'est du travestisme évolué.
C'est ça.
Puis
bien dosé quand même là, c'est pas à exagération. Mais...
Non, c'est ça. Puis en plus c'est bien reconnu, puis c'est apprécié dans la société. C'est quelque chose qui est recherché. À la différence des rérés qu'on appelle RAE, c'est comme ça qu'on appelle. Les rérés, c'est plus quelque chose qui est devenu. Le mot a vraiment eu son importance dans les années 60 quand les Français ont décidé d'aller à Tahiti puis autour, puis commencer à faire leurs tests de nucléaire. Les Français sont arrivés avec des grands contingents de militaires. Puis là, ben, il y avait un manque de femmes. OK? Malheureusement, il y avait un manque de femmes pour le divertissement, etc., pour les hommes qui étaient là, qui allaient être là pour longtemps. Et
c'est important ce que tu dis là. Oui, c'est très important. C'est par utilité.
C'est ça. Et c'est là que ceux qui étaient les hommes les plus efféminés, en apparence, ont décidé de, vu qu'il manquait de femmes compenser la demande, il y a des hommes qui étaient parmi les plus efféminés qui ont décidé de faire le changement pour pouvoir profiter de ça et de l'avantage. Et maintenant, à cause de ça, les rérés sont mal vus dans la société par les trois sexes. OK? Là, je parle des trois genres. Puis c'est discriminatoire et c'est vu comme étant de la prostitution. Par contre, les Maou puis les rérés, il y a une distinction dans les rérés dans le sens que les concours de Miss transsexuels sont bien vus, mais ce sont des rérés quand même. Sauf que eux, c'est clairement démontré qu'ils ne le font pas pour la prostitution, alors qu'il y en a pareil beaucoup. Fait que ça, c'est depuis les années 60 que réré devient quelque chose qui a une mauvaise connotation.
Et c'est important de le dire, on peut voir que les mœurs évoluent en fonction de l'utilité qu'on veut en faire du corps. Hein? Puis on est prêt à accepter des fois d'aller dans des zones où on n'irait pas dans d'autres contextes. Donc, je pense que c'est important d'amener la nuance parce qu'aujourd'hui, la société base aussi ses jugements sur ce qu'on peut véhiculer dans le monde, mais à quelque part, on est derrière une société qui vit à une époque et ce n'est pas dit que ça va évoluer grandement.
Un petit commentaire rapide. Ça se pourrait-tu que dans les médias, on nous présente des ultra-hommes puis des ultra-femmes? Tu sais, tu regardes les couverts de magazines, c'est des super filles shapées avec des pattes longues, blondes ou whatever, ou les gars sur les covers.
Calendrier qu'on a en studio.
Ça se pourrait-tu que tu réponds à ta question?
Hein? Non, mais je veux dire, c'est une question statement, en fait, là, tu sais, on nous présente tout le temps deux choses extrêmes, en fait, tu sais, que dans le fond, on regarde tout le monde autour de nous autres, ben, s'il y en a très peu, là, qui sont comme ça, tu sais, on regarde Duff, OK, c'est un exemple, mais je veux dire.
Mais, je comprends pas, là.
Duff, on est en train de te faire un image.
On nous bombarde avec... une polarisation, tu sais,
arrête de nous bombarder là avec ton image hyper masculine.
Je peux essayer de répondre un peu à ta question, c'est que veux pas, la beauté, c'est vendeur. Faut pas oublier que les gens, leur but premier, c'est de faire de l'argent. Donc, tu sais, comme les gens qui font les magazines et
les compagnies,
ça, ouais. Les compagnies, ce sont là pour faire de l'argent, sont redevables qu'à leurs actionnaires. Puis ouais, tu sais, à ce moment-là, c'est l'industrie de la beauté. Puis je veux dire, si on regarde des compagnies comme Dove qui font des campagnes pour la vraie beauté, qui nous présentent des vidéos, je veux dire, n'importe qui sur YouTube peut aller taper le Dove, c'est Evolution. Ouais. C'est une vidéo qui montre...
J'avais compris Dove, je l'ai dit, c'est
non, non, pas Dove. Là,
l'évolution, l'évolution de Dove, on te voit sans maquillage, etc.
Ça, non, 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 mais ça parle de la fille. Ça parle de la fille
face.
Qui... J'essaie d'apporter du sérieux, s'il vous plaît.
Ron, il dirait overlap.
Donc, c'est ça, c'est qu'on présente une fille sans maquillage qui est quand même relativement cute. Bon, c'est, je veux dire, c'est pas le pétard du calendrier, mais d'un autre côté,
ça
je veux dire...
Ça fait un bon mois
d'août. Ben, mettons, c'est fin de l'été, là.
Fin de l'été, c'est donc, ça, les temps sont plus rares.
Mais là, il arrive, il la maquille, ils font les cheveux. Puis ça, c'est en accéléré, ah, on parle de quelque chose qui se passe sur plusieurs heures. Puis après ça, bon, les photos sont prises. Puis ensuite, il nous montre que, bon, les photos sont modifiées. La fille, on lui allonge le cou, on lui déplace les yeux, on lui recourbe les sourcils. Puis c'est ça qui se retrouve sur nos billboards.
Ouais, vous le regardez, là.
Est-ce que ça se peut que notre vision de la beauté soit tordue?
Non, mais c'est
de
ça.
De par ce genre de choses-là.
C'est mon point exactement. C'est que dans le fond, on se laisse... on se fait bombarder, puis dans le fond... Qu'est-ce que ça fait ultimement, c'est on se ramasse avec une subversion culturelle où ce que notre culture représente pas nécessairement ce qu'on est vraiment, tu sais.
Ouais, c'est sûr.
Subversion de la culture. Hey,
désolé de couper le parti, on va faire une autre pause, on va dire.
Ouais, faut j'aille. Aussi.
Hey, j'aurais une question moi.
Non, mais plein de couper le parti.
J'ai une pause.
Ou je reviens après.
Oh, tu reviens à Pierre. OK, garde ta question. On va dire un gros merci à Geneviève qui est en ligne.
Oui.
Merci d'avoir appelé.
Merci, en tout cas. Bravo, là. je sais que vous en avez beaucoup. Des félicitations pour votre programme, là.
C'est la première fois que je n'entends un, en fait, moi.
Ah, ben, écoute donc, j'aurais fait une première, mais en tout cas, moi, ça vient vraiment, là, c'est pour vrai, là. Ça vient du cœur, puis vous faites une très belle couverture, puis des très questions pertinentes qui sont posées, fait que je suis contente d'être... d'avoir participé.
Puis t'es pas trop déçu, Geneviève, de moi sur l'île encore, là?
Bon.
T'es
sur l'île.
C'est sur l'île.
Non, mais c'est parce qu'il y avait dit ça tantôt. On continue.
On passe à un autre appel. Hein?
Bon, ben.
On passe à un commercial.
Merci, Geneviève. Passe une belle soirée.
Merci.
Bye.
Là, il crouse même au téléphone.
Bah oui, tout.
Il y a une jolie voix, vraiment. Sérieusement.
Ouais, mais elle est déjà prise.
Duff, t'as raison, mais t'as aucune chance.
Non, mais je te demande pas d'avoir une chance. Je te dis qu'elle a une belle voix.
Faudrait que t'aies l'air plus féminin que ça.
Ouais, mais c'est pas le but. Je fais juste dire qu'elle est belle.
Mais par exemple, on a eu la confirmation. On a la confirmation. Tu peux être féminin, mais garder ton pénis quand même.
Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
Hey, on va faire une petite pause. On se retrouve de l'autre côté. Vous écoutez Radio Choc sur les ondes de XM 172.
Radio Choc and Friends.
C'est quoi donc l'affaire?
Ben, c'est une gang de chums qui jase autour d'une petite bouteille de vin, puis quelques petites frettes. Pis si t'as le goût de les joindre, ben, compose donc le 1-866-497-4728. Radio Choc and Friends.
Nouvelle référence en suppléments sportifs et nutritionnels au Canada, Naturellement en Forme propose une vaste gamme de produits de qualité, tous approuvés par Santé Canada. Nos conseillers qualifiés et formés vous inspireront confiance. Multivitamines, protéines, barres protéiques, boissons énergétiques, créatines ou encore brûleurs de gras, que ce soit pour perdre du poids ou augmenter votre masse musculaire, faites confiance à Naturellement en Forme. Visitez notre magasin en ligne au www.nfquebec.ca ou composez le 418-844-2444.
Radio Choc and Friends.
C'est quoi donc l'affaire?
Ben, l'intelligence de Smart, les niaiseries ad hoc, puis tout le reste du monde qui vient mettre un équilibre dans tout ça. Radio Choc and Friends.
J'étais fatigué d'être celle que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à poids. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille,
jeune fille, il y a des changements dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Avec elle pour venir avec moi, je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas, qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas, et que je nous les mets pleines d'un bouquet de lilas, tu me dises que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, dans mon corps de jeune fille. Il y a des changements dans mon corps de jeune fille. Dans mon corps de jeune fille, il y a des changements dans mon corps de jeune fille. Dans mon corps de jeune fille, il y a des changements.
Cette émission n'est pas de la fiction. Toutes les voix entendues sont des personnes bien réelles. La preuve?
Ben, c'est qu'il ferait pas autant d'erreurs. Radio Shock and Friends.
Alors, tout le monde est présentement à reprendre sa place. On a des friends, beaucoup de friends ce soir.
Yes.
Et on est en train de dire durant la pause que c'est vraiment encore un bon moment de radio qu'on fait vivre à nos auditeurs, puis que nous-mêmes, on vit.
On apprend plein de choses, j'aime ça.
Oui, on apprend, puis d'off, dans ce contexte-là, c'est pas grave.
Excusez.
Les maudits casques, là, c'est pas de ta faute, tes amis.
Non, c'est de ma faute, je l'ai pas manipulé comme fou.
Non, stresse pas avec ça, là. Non, ça va. Non, ça va, j'en veux pas.
OK, c'est beau.
On essaie de saouler nos animateurs en ce moment.
Ça, c'est toujours facile à faire.
C'est bon. Je suis en train de dire que c'est super comme moment de radio, puis j'apprécie votre visite. Je veux vous le dire avant qu'on soit plus en onde, puis que c'est poche. Je veux le dire avec les auditeurs. Et c'est sûr qu'il y a des grandes questions que Duff veut poser, puis c'est le moment de les poser.
Je veux poser des questions que je pense que les gens se posent.
Oui.
C'est toujours ce que je vais essayer de me dire. Oui, c'est beau, la transformation complète, mais ça se passe comment?
La chirurgie en tant que telle?
Ben, de tout, de A à Z. Mettons, on est vendredi soir, tu dis, bon, c'est des
chemins, je veux être ça.
Fais ça rapide, dans un laps de temps normal, mais c'est quoi, il commence par les hormones ici?
Ah, c'est ça. Disons, janvier 2007, j'appelle premièrement un groupe de soutien, il me donne des informations. Ensuite, je le dis à ma sœur, je le dis à mes parents. Ensuite, on commence à consulter pour la psychologie. Ensuite, après un certain nombre de séances de psychologie, il nous donne les hormones. Les hormones, ce que ça fait, ça fait juste changer.
Voix?
Non, la voix, ça change pas. Ça change la peau. Ça fait développer la poitrine, les hanches et tout ça. La voix, c'est un training qu'il faut faire pour la voix.
Un training?
Oui, il faut aller voir un orthophoniste ou en tout cas, il faut faire des exercices.
Faut que tu pratiques.
Oui.
Mais il n'y a rien de physique qui te font, c'est juste que tu pratiques la voix.
Ah oui. Puis j'avais une bonne voix.
Puis t'en arrives à naturellement parler comme ça.
Oui.
Mais faut pas que tu y penses tout de même. Je comprends pas le training.
Mais
c'est comme n'importe quelle habitude. À un moment donné, ça devient naturel.
Si je voudrais, je pourrais switcher en 2 secondes à mon ancienne voix.
OK. Il y a des demandes en studio.
Pas besoin.
Non, pas nécessaire.
Ensuite, il y a l'électrolyse. Puis là, il y a un processus où, pendant un certain bout de temps, tu vis moitié-moitié. Ça, c'est un, ça m'est arrivé parce que j'allais...
Comment tu gères ça?
J'allais travailler... c'est très difficile.
Parce que là, t'avais une job, là.
J'avais une job, puis j'allais travailler là en gars tous les jours. Puis moi, le soir, je vivais en tant que femme. Puis je vais-tu croiser un collègue aller sur la rue?
Ben, c'est ça.
Mais ta peau, en passant, tu dis la peau, les hormones, ça change à...
Ça change la texture, ça l'adoucit.
OK.
Puis,
c'est de l'assouplisseur.
Ça te ferait du bien, mon doff.
C'est ça, c'est comme un assouplisseur, c'est comme un, caprice.
C'est très difficile, mais en même temps, c'est une période magnifique parce qu'on peut enfin s'exprimer comme on veut. Et bon, on commence à travailler, à vivre à temps plein, comme on dit, donc à travailler en tant que femme. Et là, après ça, on attend à peu près un an. Ça, c'est la période que les médecins exigent des patientes avant de commencer la chirurgie. C'est comme, ils veulent être sûrs.
Donc, la chirurgie, l'ablation du pénis, on enfin un vagin, puis...
C'est ça.
La transformation, oui.
C'est ça. Donc, on a une période d'un an à vivre dans le sexe. Après cette année-là, ben ils se disent, coudonc, c'est pas vrai. Et puis là, on peut passer à la chirurgie, qui est en fait une chirurgie qui dure à peu près 2h30.
Pas plus que ça.
Pas plus que ça.
Tu vois comment c'est pas compliqué, hein?
Mais attention!
Moins long qu'à la Montréal.
Parce qu'il leur vire à l'envers.
Je vous dis une chose, par exemple.
C'est graphique.
Pour les femmes, c'est assez simple. Parce que...
Tu veux dire pour l'homme qui devient femme?
L'homme, d'homme à femme, c'est relativement simple. C'est 2h30.
C'est dur de faire un pénis.
D'offre, tu sais quoi, hein? C'est l'ablation du cerveau, en fait, qu'ils font.
Attends, c'est la différence entre le petit cerveau et le gland.
Oui, continue,
donc, c'est ça, une semaine de convalescence à l'hôpital. Puis après ça, on retourne chez nous. Puis il y a des exercices de dilatation à faire pour pas que ça se referme, le vagin. Et... moi, après un mois, j'aurais pu retourner travailler, mais j'ai quand même pris 2 mois de vacances et voilà, la vie continue après.
Puis
ça.
Les hormones, c'est assez pour les seins. Il n'y a pas de. Rien qu'à prendre des hormones, les seins vont.
Comme tu peux voir. Bon, ça y est. C'est là où moi, je deviens l'exemple.
Tu peux voir, il y a des différences. Il y en a que les hormones, ça marche mieux pour certaines personnes que d'autres. Donc, moi.
On parlera de mon cas après.
Ça a marché pour certaines choses, mais. Pour la poitrine, ça n'a pas marché fort pour moi.
Puis est-ce que tu serais ouverte à une augmentation mammaire en ce moment?
Oui, peut-être. Allez, si on me l'offrirait, j'y penserais.
OK. Ouais.
En cadeau?
Oui, mais sûr, j'ai pas l'argent pour ça. J'ai encore des dettes.
Puis toi, c'est uniquement les hormones?
Ça. Je vais expliquer, moi, mon cheminement. C'est ça, dans le cas de Chloé, ça a commencé, à 24 ans. Le mien a commencé à la naissance, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que les médecins ont pris ce magnifique enfant et ont fait comme « il y a quelque chose qui marche pas ». Puis là, mes parents ont signé le papier. Et après ça, ils ont pris ce que j'avais et ils en ont fait un pénis.
Mais j'ai une question, est-ce qu'il aurait pu te laisser comme ça?
Il aurait pu. Maintenant, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que l'enfant, justement, ait âge de prendre cette décision-là.
Ben, j'espère.
Et prendre la décision.
Ce qui est logique.
Ce qui est logique, c'est juste que ça n'a pas toujours été comme
mais
ça.
C'est ça, c'était logique dans le temps aussi, tu sais.
C'est exactement ça, parce que, veux pas, si on y va sur une base statistique, ils ont une chance sur deux de se tromper. veux pas.
C'est 50% quand même.
Ben oui, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, ils ont aussi 50% de chance d'avoir une bonne réponse.
Mais tu sais, les seins, on parle des seins,
parlons des seins.
J'ai rien contre ça, les seins.
Oui.
Mais tu me parles, Chloé, que Stéphanie a pris des hormones, puis les seins ont pris leur place finalement. Mais je veux dire, à la base.
Ils ont pris leur place,
puis ils l'ont.
Ils ont sorti les talons, hein.
Ils l'ont grandement pris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à la base, tu dis que, ils ont accès pour mettre en gauche. C'est gauche que je dis là, mais c'est ça, là.
Ils l'ont péré.
Mais je veux dire, à la base, t'avais pas. Mettons, à 17 ans, t'avais pas de seins pantoute, ou t'en avais pas.
Moi, j'avais l'impression d'avoir comme des bourrelets pectoraux, là.
Okay.
Je veux dire, c'était pas plat, c'était pas, tu sais, je veux dire...
il y avait quoi là, mais c'était pas ça.
C'était pas ça, tu sais, je veux dire. À un moment donné, c'est ça ce qui arrive, c'est que dans mon enfance...
Puis en arrivé là, il se passe comment de temps, mettons?
OK, je peux-tu expliquer le cheminement?
Oui, explique après ça, parce que je m'excuse, j'ai des questions pour les auditeurs.
C'est que, veux pas, c'est que
pour les auditeurs.
Mes parents, à un moment donné, justement, tu sais, j'avais des médications à prendre et tout ça. pour cette condition médicale-là, parce que c'est pas juste au niveau intersexuel, c'est qu'il y a tout un autre côté médical, ce qui fait que j'ai beaucoup d'intolérance par rapport à plein de changements soudains dans mon environnement. Exemple, les changements brusques de température ou comme une blessure quelconque. Moi, je vais avoir une grippe, elle va être effroyable, puis je veux dire, okay, là, on peut faire la joke, de la grippe d'homme, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pratiquement ça. Mais, puis ça explique aussi pourquoi j'ai aucune tolérance à l'alcool, mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais, mais ça, j'ai été un peu surpris. C'est vrai, elle prend pas d'alcool pantoute.
Mais oui, pour répondre à ta question, c'est que au moment où je te dirais que j'ai commencé vraiment comme une hormonothérapie, où est-ce que j'avais pris la décision de devenir le sexe que moi je sentais être, et que mes parents ont finalement lâché prise, ont fait comme OK, ben c'est pas une phase, ça va, tu sais, je veux dire, c'est vrai, puis les médecins se sont trompés, puis tu sais, faut qu'on replace ça comme du monde. J'ai pris, j'ai passé, veux pas, bon, on va y aller avec l'alphabet. 2A, A, B, C en 2 ans.
Mais je veux dire, les hormones vont-tu plus interagir par rapport à ce que t'as dedans de toi qui est considéré comme étant femme ou homme, ou ça a absolument aucun rapport?
Je te dirais que veux pas, ça doit avoir un lien. Mais d'un autre côté, la génétique familiale aide beaucoup. Je veux dire, les femmes chez nous ont vraiment...
Non, mais
exactement. Ma mère s'en est faite enlever.
Imagine pas. Je comprends.
Si je prends l'exemple de ma sœur, je veux dire, elle est comme moi. Donc, c'est pas mal la génétique. On est comme ça dans la famille. Donc...
Fait qu'à la base, les hormones vont simplement peut-être reproduire ce qui en est vraiment du code génétique, finalement.
Exactement.
Alors, Stéphanie, dans ton cas... les docteurs ont fait une décision, OK, ben on va changer les organes génitaux pour en faire, mettons, un certain type. Mais à ce moment-là, ça, c'est... c'est parce que...
C'est pas là, fonctionnel, là, maintenant... c'est ça ta question?
Non, mais dis maintenant qu'on fait rien, de façon générale, on fait rien, mais ça, c'est à condition que j'imagine qu'il n'y a pas de problème de fonctionnalité, là, quelque part.
Ben, en fait, je te dirais que les médecins font rien à condition que ces médecins-là fassent preuve d'éthique. Parce que une question de fonctionnalité, ça.
Ben c'est ça, fonctionnel, non fonctionnel, pour toi, c'est il n'y a pas d'érection, il n'y a pas de.
Non.
On va y aller, on parle.
On parle franc. Il n'y a pas d'érection, il n'y a pas d'éjaculation, j'ai pas de testicule.
OK.
Oui, parce qu'ils ont juste. Okay. Ils ont juste fabriqué.
Ils ont juste fabriqué des petites prothèses qu'ils ont mis, genre, à l'opération.
C'est tout.
Tu sais, je veux dire.
Ils ont reconstitué, semble-t-il, imagement d'une paire de testicules.
Imagement.
Qui n'est pas des.
Tu sais, je veux dire.
Tu parles moi.
Être plus à propos et vouloir te donner des explications graphiques, je pourrais te laisser les squeezer puis j'aurais aucune sensation.
Non, ce n'est pas nécessaire.
C'est ce que je m'ai dit.
5 piastres, c'était pas game.
Ça, Duff, t'es toujours prêt à te dévouer pour tes auditeurs à toutes les
choses. Ouais,
jeux.
Hein?
Là, côté 5, je suis prêt, Marco, tes testicules. Ben, je passe mon tour et je le laisse à Smart. Superbe chemise ce soir.
D'abord, c'est la bullshit ce que tu dis à propos de ton dévouement pour les auditeurs quand tu vas claquer les fesses à
Non, mais par exemple, studio, par exemple, là. On pourrait.
J'ai pris goût, j'ai mis
ça. Ça veut dire que si jamais je te proposais de toucher mes seins ou mes.
Si tu me demandes gentiment, je vais résister un peu, mais peut-être, là.
T'es ridicule.
Okay. Tombe pas dans cette trappe-là. Là.
Ouais, ben alors non. Ça, je me disais, de toute façon, je crois lire sur le chat qu'il y avait une question qui s'en venait, qui va être à propos.
Non, mais c'est notre ami Witness. Avant la pause, j'ai dit qu'on allait revenir avec sa maison. Oui. Sa question, sa maison.
On peut revenir avec sa maison aussi.
C'est-tu un duplex ou un triplex? C'est là la question du jour.
Vas-y, Witness.
Ah non, mais je veux
dire... quand je parlais de fonctionnalité, je me disais, tu sais, tu sais, mettons, l'enfant peut évacuer, tu sais, au niveau, tu sais, l'urètre, les affaires comme ça, tu sais, j'imagine qu'il doit avoir un certain...
Est-ce que t'évacues, c'est ça qu'il veut savoir?
Est-ce que j'urine, effectivement, oui?
Non, mais je veux dire, ils doivent vérifier qu'effectivement, tu sais, l'enfant, il n'y aura pas,
pas
des problèmes bizarres,
on veut parler de problèmes bizarres, on va parler de problèmes bizarres. Je vais expliquer comment j'ai su, que j'avais cette condition-là. À un moment donné...
J'ai juste un follow-up très rapide à ça.
Mais laisse-la aller avant, par exemple.
Bon, non, mais ça va être très rapide. Parce qu'avant qu'on débarque trop de la traque, là, quand tu dis maintenant, les docteurs, en général, ils vont laisser faire, puis on va laisser le choix plus tard. On a-tu des vérifications maintenant vis-à-vis des organes internes? Y a-tu quelque chose qui vérifie?
Ah, oui, OK.
Tu
En fait, dans le fond, c'est le téléphone qui pose la question, ça change rien parce qu'ils font rien.
En fait, c'est que par échographie, ils peuvent voir beaucoup de choses. Hein, tu sais, je veux dire.
La technologie,
puis en fait, c'est ça. Moi, comment j'ai su que j'avais cette condition-là, c'est qu'un beau matin comme ça, je me suis réveillée et bon, dans mes selles, je me suis mise à évacuer genre du sang beaucoup. Okay. Puis là, j'étais comme, ça, c'est pas normal. Puis habituellement, c'est une raison pour laquelle tu vas chez le médecin. Et donc, à ce moment-là, j'ai passé une colonoscopie. Pour les gens qui ne savent pas à la maison, une colonoscopie, c'est la caméra qui fait comme 4 mètres qui rentre dans ton anus.
Et par la suite, dans les intestins et tout ça.
Exactement.
Ça te lève le cœur, littéralement.
Puis ils ont rien trouvé d'anormal. Donc, à ce moment-là, moi, mon médecin comme était un peu... c'est comme perplexe par rapport à ça, parce qu'habituellement, quand tu saignes, tu sais, ça vient de quelque part.
Puis, généralement. Il y a une cause à effet, hein?
Ben oui, on cherche les causes à effet. Puis c'est à ce moment-là que là, Smart a l'air de faire une crise d'épilepsie.
Non, je fais juste signe à Duff parce qu'il me voit pas durant l'émission. Non, continue avec ton point. Mais,
okay.
Mais je veux dire, c'est à partir de ce moment-là que tu
ce que je vais expliquer, c'est que mon médecin me dit, ça t'arrive-tu souvent? Puis là, j'ai fait comme, ben, tu sais, je veux dire, c'est intermittent. Puis elle dit, remarque quand est-ce que ça t'arrive. Puis c'est là que j'ai remarqué que ça se passait...
Une fois par mois.
Genre.
Style, mettons.
Puis ça, c'est à partir du moment où j'avais commencé l'hormonothérapie. Et bon, on sait que les hormones à l'adolescence font plein de choses magnifiques. Donc, c'est à ce moment-là où est-ce que...
Bon, t'étais régulière.
Ouais, c'est pas mal ça. Puis avec des tests plus poussés, ben, on, tu sais, je veux dire, puis à la recherche de mon dossier médical, parce que je l'avais jamais vu... on commençait à se poser des questions, puis c'est un moment donné où ma mère, malheureusement, a fait une crise cardiaque, et bon, cette crise cardiaque-là a fait en sorte qu'elle remettait en question plein de décisions qu'elle avait prises dans sa vie, dont celle de ne pas me dire que j'avais cette condition-là. Ah, et okay. Là, justement, c'est là qu'elle m'a dit, écoute, Steph, faut qu'on discute de quelque chose, puis tu vas peut-être être fâché.
J'ai un auditeur en ligne, je veux juste voir si c'est pas une question par rapport à ça qu'il veut poser. Oui, allô?
Ouais, hey, je viens de me plugger, là. De quoi vous parlez?
Ben, en fait, on parle de deux types de... Ben, je veux pas dire genre, mais on parle des intersexuels et des transsexuels.
OK.
Donc, on est en train d'élucider... je veux pas dire le mystère, mais on essaie de...
Le mystère de la vie.
De mieux comprendre...
Leur réalité,
puis... Okay. Comme dans le cas de Stéphanie, je veux dire, elle est née comme ça, avec une ambiguïté sexuelle qui fait en sorte qu'il n'y avait aucune évidence à savoir si c'était un homme ou une femme. Et
les médecins ont décidé que c'était un homme.
Et les médecins ont décidé que c'était un homme.
Ah ouais?
Oui. Mm-hmm.
Ah, intéressant.
Ben, ouais. Pas vraiment. Ben, quand tu le vis, c'est une autre histoire. Okay.
mais si t'es capable, tu donneras le podcast après, parce que vraiment, à partir du début, il y a vraiment une masse critique d'informations.
Oui, c'est ça.
Vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans.
Hey, merci de ton appel. Salut. Continue avec ton histoire.
Ben, mon histoire, c'est ça, c'est pas mal ça. C'est que rendu à ce moment-là, bon, c'était confirmé, puis j'avais décidé d'y aller plus drastiquement dans mes mesures. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais déjà le support de ma famille. C'est juste que là, tu sais, le support, je me suis mise un peu légèrement à questionner ce support-là. Bon, est-ce que c'était de regret de pas me l'avoir dit avant, ou parce que veux, veux pas,
mais
au départ.
C'était une autre période.
Jette un patin. Ça veut dire que toi, là.
Oui.
Tu le savais pas.
Non, au départ, je le savais pas. Moi, à la base, je pensais que... Moi, quand j'ai rencontré Chloé, elle et moi, on suivait le même cheminement, selon moi. Puis à un moment donné, ça a pris une voie divergente où est-ce que je me suis rendu compte que, hey, il y a autre chose.
Je veux dire, sans dire qu'on te l'a caché, je veux pas nécessairement...
On a omis de me le dire.
C'est ça. Ben, c'est comme quand quelqu'un dit, hey, t'as compté de mentir. Non, je te l'ai pas dit, c'est pas pareil.
Ouais,
vérité cachée. Hein.
Mais... Mm-hmm. Je veux dire, la journée que tu as su ça, oui, ça t'a permis peut-être de comprendre certaines réactions de ton corps, mais
ouais.
Comment est-ce que tu as géré cette boule-là? Là?
Ben, je te dirais qu'à la base, si on prend, puis là, tu sais, je veux dire, sans rentrer dans le processus discriminatoire, mais tu sais, dans la société en général, on marginalise, bon, tout ce qui est gay, lesbienne, transsexuel et tout ça. Après ça, dans les gays, lesbiennes, transsexuels et bisexuels, on marginalise les transsexuels, puis dans les transsexuels, on marginalise l'intersexualité.
Okay, ouais.
Tu sais, je venais comme de descendre d'une coche.
La multiségrégation.
Fait qu'à ce moment-là, tu sais, le gros questionnement que je me posais à la base, c'est est-ce que j'en parle à ma meilleure amie?
Ah ouais?
C'est la question que je me suis posée parce que je me suis dit, okay. D'un côté, ben à la base, tu sais, je veux dire, il y a toujours notre argumentation sur la poitrine qui crée des différends. Mais tu sais, je me suis dit, est-ce que je vais aller rajouter ça en plus? Parce que, tu sais, je le sais c'est quoi le cheminement, je le sais que c'est pas facile, puis je me dis, d'un autre côté, c'est que dans la communauté transsexuelle, des fois, il y a de la jalousie, où il y a du monde qui pense qu'ils ont une condition intersexuelle puis qu'ils l'ont pas, puis que finalement, ça, tu sais, je veux dire, ça les gens deviennent ouais. dépressifs par rapport à ça. Puis je me suis dit, est-ce que je veux aller imposer ça à mes amis? Est-ce que je vais aller... Puis c'est là que je me suis questionnée, puis je me suis dit, ben, tu sais, c'est ma meilleure amie. Si je n'en parle pas, à qui je vais en parler? Puis, tu sais, j'avais besoin d'en parler à ce moment-là.
J'imagine.
Donc...
J'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est comme la discrimination entre homosexuels et lesbiennes
ouais.
qui disent, vous autres, les bisexuels, vous savez pas vous brancher.
Genre.
Tu sais?
Ou que la bisexualité, ça existe pas, c'est des gays qui s'assument pas.
Ouais, c'est ça. Je généralise pas, mais ce que je dis, c'est qu'elle est présente.
C'est un discours qu'on entend régulièrement.
Ouais.
Puis moi, je reviens toujours à de la base, de la grosse base. Hein,
La grosse base.
Mais là, l'ablation du pénis, tu vas faire ça prochainement?
Ben, en fait, c'est pas une ablation. Moi, que je veux faire, c'est une réorganisation.
Okay. Non, pas budgétaire, mais
non, mais c'est parce qu'en fait,
urinaire, ouais.
En fait, moi, je te dirais que ce qui a été marquant de mon côté, c'est que tout le long de mon cheminement de vie, j'étais pas à l'aise avec un pénis. Mais quand j'ai découvert que mon pénis, en fait, c'était mon clitoris qui était long, j'ai commencé à avoir du fun.
Oh!
Ben, tu sais, je veux dire, tu t'acceptes plus
ouais,
ton
c'est
corps.
Ça, c'est de l'acceptation.
Tu te rends compte que ton corps t'appartient un peu plus que tu le penses. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai commencé à avoir du fun quand même. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste que.
Une soirée pluvieuse, ça te dérangeait pas trop, là.
Ben, disons que personnellement, je me dis probablement que j'ai plus de chances d'être vaginal, puis j'aimerais explorer cette possibilité-là. Donc.
Puis, comment tu te sens à l'approche de ça? Parce que là, tu veux le faire dans les prochains quoi, qu'on vient de faire?
Je suis sur une liste d'attente.
Et ça correspond à peu près pour les gens qui
c'est
nous écoutent.
C'est 4 à 6 mois environ.
OK. Mettons que dans 6 mois, c'est fait. D'ici là, c'est quoi? C'est oui, on sait que tu as hâte à ça, mais tu te sens comment là-dedans, par exemple?
Ben, je me sens comment là-dedans? Je te dirais que. Comment je me sens? Ben, à la base, j'ai très hâte de retourner à la piscine et de pas passer 2 heures à choisir quel genre de maillot je vais mettre pour, comme, éviter. Quelconque possibilité de quelque chose qui...
Que les gens voient que t'as un pénis dans tes culottes.
Ben, bon. Ouais, disons, pas gros, là, mais il y a quelque chose, tu sais, qui...
OK.
Oh, il nous reste 3 minutes.
C'est plat.
C'est incroyable, c'est plat.
Puis la question de Witness n'est même pas arrivée.
Ah, ben, Witness, on va la prendre, la question, là, parce qu'on n'apprendra jamais.
Oui. C'est que tantôt, on parlait un petit peu au niveau biologique, puis au niveau évolutif, comme, mettons, du fœtus, ces choses-là. Quand un enfant vient au monde, qu'on dit qu'il est hermaphrodite.
Hermaphrodite, en fait, c'est une très bonne question. Ouais. C'est que l'hermaphrodisme, c'est un terme qui est considéré comme désuet parce que justement, à la base, ça vient dire que la personne a automatiquement des organes génitaux des deux sexes.
C'est ça,
pas vrai.
C'est pas vrai, ça.
C'est pas vrai dans le sens que, tu sais, je veux dire, oui, ça se peut que la personne ait un pénis et ait un vagin, mais tu sais, en même temps, la probabilité que ça soit ce cas-là
c'est minime,
est
hyper minime,
extrêmement rare.
Il y en a eu.
Ça serait comme une condition parmi tant d'autres, mais c'est devenu un terme à la longue qui est péjoratif. Donc, le terme plus englobant, justement, c'est une personne intersexuelle.
Okay. Et cette personne-là qui naît comme ça, ça va être son milieu qui va déterminer si elle sera plus homme ou femme. J'imagine.
Ben, en fait, c'est ça, c'est que, à la base, dans mon temps, c'était vraiment la communauté médicale qui prenait la décision. Des fois, les parents étaient mis au parfum, mais pas toujours. Maintenant, la tendance, c'est vraiment d'attendre, tant qu'il n'y a pas de problème majeur au niveau urinaire et tout ça, d'attendre que l'enfant soit à l'âge de prendre une décision. Souvent, l'enfant ne sera pas élevé dans un sexe particulier ou il va être élevé dans le sexe désiré par les parents, mais il va toujours avoir cette possibilité-là où l'enfant va pouvoir prendre la décision par elle-même ou par lui-même.
Okay.
Je peux-tu, peut-être en terminant, juste lever un point, je pense que les gens disent, moi honnêtement, les filles, sérieusement, là, je vous lève mon chapeau. Parce que d'avoir été au bout de vos rêves et de vos convictions dans des années comme on vit, où il y a des jugements de tout le monde, des parents, des amis.
On l'a dit, les images qui sont
de
projetées.
Tout le monde. Moi, je pense que sérieusement, les gars, moi ici, en studio, je vous lève sérieusement mon chapeau. Je trouve ça beau de voir ce que vous faites, puis garde, go ahead for that. Puis je trouve ça vraiment, garde, je vous encourage à continuer, puis c'est...
Moi, là...
moi, je suis la découverte de 2009 de test de
Exactement. C'est comme ça que je l'appelle, ma découverte 2009.
Avant de terminer, par contre, est-ce que rapidement, on peut nommer deux, trois associations, je ne sais pas, là, qui peuvent aider les gens.
Les associations.
Je ne sais pas, un numéro de téléphone ou un nom comme ça, les gens après ça sur Google pourront le taper.
Pour les personnes transsexuelles, je pense que c'est l'ATQ. Donc, www.atq1980.org.
Il y a beaucoup d'informations.
Il y a informations pour toute la province, ligne de référence, etc.
Et pour...
Pour l'intersexualité, je n'ai pas de site qui me vient en tête en ce moment, mais par exemple, juste taper intersexualité et Québec, province de Québec dans Google.
Ouais.
Puis je veux dire, tout va être là. Les informations sont généralement très bonnes sur ce qu'on retrouve.
Puis il y a un site mondial aussi, je pense, qui recoupe tout ça. Intersexualité, quelque chose?
Je te dirais qu'en ce moment ça me vient pas en tête, mais sur Google et votre ami.
Oui, c'est ça. Je dirais Internet aujourd'hui au moins a ce côté bénéfique-là pour les gens qui recherchent. Hey, merci beaucoup de votre visite.
Merci sérieusement.
Merci de nous avoir reçus.
Bon retour à Montréal et vous êtes les bienvenus. Une fois qu'on a franchi la porte ici, on est les bienvenus à vie.
Vous avez votre carte VIP. Oh.
Donc,
j'ai même pas ça.
Et là-dessus, on souhaite une bonne semaine à tous nos auditeurs et pour celui qui s'est joint tout dernièrement, on lui suggère de télécharger le podcast qui est disponible au radioshocklive.com. Bonne semaine tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Radio Choc.
Bye bye.
Wow, faites-vous-en pas. C'est fini pour cette semaine, mais les gars vont être là la semaine prochaine, puis l'autre après. Tu comprends le principe? C'est ça Radio Choc and Friends.